On voudrait les rapporteurs. Oui, voilà. Et Sarah, elle est là. Sarah. Bonjour. Vous êtes tous bien installés, bien réveillés. Bonjour à tous. Merci d'être là encore ce matin. Voilà, on va donc continuer ce matin et procéder au rapport des ateliers qu'il y a eu hier soir. Juste avant, je voudrais tous vous dire merci d'être là, d'avoir participé à ce moment important. Et aussi, je voudrais tous, si vous avez regardé dans vos petites sacoches, il y a un petit bulletin d'adhésion à l'OFMP qui peut nous servir pour continuer à entretenir ces moments de rencontre, à les nourrir, à en projeter d'autres. Voilà. Donc, regardez bien dans vos sacoches. Merci à vous. Et puis, nous allons procéder au rapport.
Oui, je crois que, voilà, nous avons deux heures. Alors, d'abord je crois que hier, dans son exposé, le doyen Gilles a mentionné les neurones miroirs. Hein, alors à propos de miroir, je vous invite à vous regarder et même à vous admirer dans cette magnifique photo, et parce que d'abord j'y reviendrai tout à fait en fin d'exposé, mais je crois qu'il y a là un effet de miroir et de réflexion qui est exactement l'objet de cette réunion de ce matin. Voilà, qu'est-ce qu'on fait maintenant de tout ce que nous avons échangé pendant la journée d'hier. Alors, sur le plan de l'organisation, donc, on va demander au rapporteur d'être bref, hein, et d'exposer comme ça quelques conclusions, juste quelques idées de leurs ateliers. Et on va pouvoir, à l'issue de ça, avoir tranquillement et pendant trois quarts d'heure cette discussion générale qui nous a peut-être un tout petit peu manqué jusque-là. Hein, donc, on va se donner ce temps-là. À l'issue de ce temps-là, j'accomplirai les tâches qui me sont conférées, à savoir essayer de donner ne serait-ce que mon impression de ce qui s'est passé, et surtout d'ouvrir les perspectives d'avenir à court terme que tout ça a déclenché ou est en train de déclencher. Hein? Donc, première partie de cette matinée, les rapports des différents ateliers. On commence peut-être...
Élise Perret, voilà, donc, Élise qui Perret. Était dans l'atelier gérontologie et fin de vie.
Pardon. Donc effectivement l'atelier numéro 4, donc gérontologie et fin de vie. Donc c'est vrai que la fin de vie est un sujet qui a été très médiatisé ces dernières années, avec différentes affaires, hein, notamment Vincent Imbert, l'affaire Lambert dernièrement. Un des axes de réflexion qui s'est posé à nous, c'est effectivement de savoir si on accompagne une personne âgée en fin de vie différemment d'un autre sujet. Est-ce que les personnes âgées expriment une angoisse de la mort ? La question de vivre et les conditions de fin de vie sont-elles plus importantes que celles de la mort ? La question de savoir si les personnes âgées expriment une volonté de mourir, est-ce qu'il s'agit vraiment de cela ou plutôt d'un renoncement à une vie telle qu'elle est devenue ? Donc, on en est arrivé effectivement à dire qu'il était important de rechercher finalement ce qui peut motiver cette expression et de savoir si c'était bien une réelle volonté de mourir. Les soins palliatifs sont également souvent réduits aux soins réalisés à l'approche de la mort et non dans la vie. Et donc, des soignants se sont exprimés à ce sujet et effectivement, ils nous ont témoigné que finalement, ils n'accompagnaient pas différemment un sujet en fin de vie, qu'il soit âgé ou non. Finalement, le même accompagnement est proposé pour tous. L'accompagnement de la personne passe également par le bien-être des soignants. Il faut partager ainsi les difficultés de chacun et aussi les difficultés des soignants. Auparavant, on assistait effectivement au fait que le patient s'adaptait au traitement, aux organisations soignantes. Et la médecine de la personne réinterroge tout ceci, et notamment la relation soignant-soigné, en étant à l'écoute des difficultés de chacun, des questionnements des soignants, et leur permettant aussi de s'adapter davantage aux patients. La notion de respect des choix de la personne est revenue aussi tout au long des échanges. Il faut ainsi écouter le malade, donner du sens à sa vie et respecter ses choix. Mais ces postulats interrogent aussi le principe d'autonomie de la personne. Comment respecter le désir du malade, sachant que le désir réel peut être différent du désir exprimé? Comment respecter le désir du malade, qui peut être différent de celui des familles et des projets envisagés par les professionnels? Il faut ainsi accepter de prendre des risques. Vivre, c'est prendre des risques. Cela est ainsi plus facile quand c'est porté collectivement, d'où l'intérêt d'échanger en équipe, d'échanger avec le malade, d'échanger avec la famille. On s'est aussi beaucoup interrogé sur effectivement la société, notre société actuelle, qui met en avant un risque zéro, un tout sécuritaire, un tout normatisé. Et pour arriver effectivement à un paradoxe qui valorise l'individu, le tout personnalisé, et qui en même temps produit des normes de plus en plus imprenantes, enferme dans des cases, stigmatise et morcelle. Ainsi, on a la notion d'aidant, qui finalement apparaît comme un terme technocrate pour des conjoints, des enfants, qui ont aussi la liberté de se faire aider ou non, de se laisser envahir par les professionnels ou non. C'est des termes très enfermants, très stigmatisants, et finalement, on va bientôt avoir un statut de l'aidant qui finalement ne laisse place à aucune liberté de chacun. Donc, c'est aussi faire attention justement aux mots, aux concepts, aux cases. Avec toutes ces normes, les soignants prennent ainsi parfois des risques pour s'adapter à leurs patients et à leurs désirs. On avait ainsi le professeur Gilles qui nous disait que finalement, dans un de ses services, ils avaient accepté d'accéder au désir d'un malade atteint de SLA et donc refusé de lui donner une permission pour une perfusion pour le nourrir pendant 12 jours. On a aussi effectivement évoqué la loi Néonti, bien sûr, qui a donné un cadre à ce qui pouvait être réalisé de manière exceptionnelle. Et on a bien souligné le mot « exceptionnel ». Cette loi a permis une avancée dans le questionnement, dans la réflexion collective. Elle guide les soignants, leur rappelle aussi la nécessité parfois d'une neutralité pour apprécier une situation. Mais on a aussi un autre point de vue sur cette loi qui est effectivement peut-être perçu comme le début d'un engrenage législatif sur la réglementation de la fin de vie. Jusqu'où irons-nous sur l'euthanasie active, sur la question aussi de la fin de vie des enfants, des personnes handicapées? Et puis, on a enfin réfléchi sur cette éthique qui nous interroge tous. Et l'éthique est d'abord un questionnement, c'est avoir des incertitudes. Et justement, c'est l'inverse d'un texte normatif. Donc, il faut aussi se méfier des lois qui veulent peut-être éviter aux soignants d'accompagner la souffrance et d'être avec l'être souffrant. Les soignants doivent pouvoir accompagner dans leur toute impuissance l'être en souffrance. Plus qu'une loi, les soignants apportent un soutien, une écoute. Ils doivent ainsi soigner et non pas penser selon une loi. Et enfin, on a effectivement évoqué la place du sujet âgé dans notre société et la vieillesse qui est souvent présentée comme un coût pour nous tous, alors qu'on oublie de dire qu'elle apporte beaucoup, et notamment en termes aussi économiques, en termes d'emploi et aussi en termes d'alimentation de notre circuit financier. Donc il faut donc veiller à ce lien intergénérationnel et aussi peut-être qu'en pensant à nos vieux, penser nous aussi à notre vieillesse et préparer et anticiper notre vieillesse.
Bien, alors moi,
excuse-moi, Jean Tanzi qui a bien accepté d'être présent parmi nous aussi, à toi.
Oui, merci. Je tiens simplement à dire que je ne suis pas du tout dans le monde médical, puisque je suis retraité du CNRS et mon domaine, c'était plutôt l'aérodynamique, de là à penser que ce que je vais raconter, c'est du vent. Bon, donc, trêve de plaisanterie. Donc, il était question de traiter de l'annonce de la maladie, de préférence une maladie grave, évidemment. Donc, ce qui a été tout de suite évoqué, c'est l'étymologie du mot annonce, qui vient du latin nuncius, qui signifie le messager dans un sens religieux et qui signifie, qui dirige le message vers, concernant autant le contenu que le destinataire. Ça, c'est une grosse phrase. Alors, en préalable, quand même, ce qui a été évoqué aussi, c'est de savoir si on devait ou pas annoncer à certaines personnes, compte tenu soit de leur handicap, de leur retard mental, soit de leur niveau socio-professionnel, ça a été évoqué également. Il semble que ces idées sont a priori à rejeter. On doit pouvoir trouver les mots pour dire, pour peu que le patient ait envie d'entendre. Alors, il y a un changement d'époque, effectivement, qui met en évidence le fait qu'il y a une trentaine d'années, sans doute, on occultait beaucoup les choses. C'était des sujets plus ou moins tabous. On disait aux proches sans dire aux malades eux-mêmes. Ensuite, basculement complet pour s'autoriser en gros à tout dire. Et aujourd'hui, on se rend compte que la difficulté est entière, c'est-à-dire qu'on cherche, on cherche la bonne méthode. Et plus que le diagnostic lui-même, on cherche également à savoir si on peut s'autoriser à parler de pronostic, à délai de survie, etc., etc. Il y a un cas d'espèce qui a été cité quand même sur le fait qu'une société s'est protégée à un moment donné devant une maladie comme le sida, ne serait-ce que parce qu'elle était transmissible et qu'à ce moment-là, on s'autorisait sans doute à dire au-delà de ce que les gens étaient prêts à entendre. L'annonce à qui, quand, comment, annonce, mode d'emploi, point d'interrogation. Alors, y a-t-il une déontologie de l'annonce, une procédure, un protocole, une charte? Bon, on a entendu que les services de cancérologie ont un système d'organisation qui se décline selon un certain nombre de personnes, hein, le médecin, l'infirmière, l'assistante sociale. Est-il satisfaisant pour autant? J'ai cru comprendre que la problématique était entière. En fait, l'annonce touche à l'intime, à la liberté individuelle de vouloir savoir ou pas. De plus, qu'est-ce qu'on peut dire devant une maladie qu'on ne sait pas soigner ou dont l'évolution reste imprédictible? Cette annonce, d'ailleurs, peut être multiple, associée aux différentes phases de la suspicion, de la confirmation, des complications. Ce n'est pas une phrase lapidaire qui tombe d'un seul coup et qui est définitive. Donc à la tyrannie du rien dire a succédé la tyrannie du tout dire et aucune, évidemment, n'est satisfaisante. Un autre questionnement qui est intervenu aussi, c'est de savoir si devant un diagnostic qui statistiquement entraîne un délai plus ou moins long pour une issue évidemment fatale, est-ce qu'on change d'attitude? Est-ce que quelqu'un qui est statistiquement est amené à mourir dans les 2 mois ou dans les 10 ans, est-ce que c'est la même chose? Et bon. Une personne de l'atelier, ça c'est intéressant quand même, on a eu 3 témoignages assez émouvants. Une personne de l'atelier qui est devenue non-voyante explique l'évolution depuis son enfance de son handicap en signifiant qu'on lui a caché son mal. Mais au final, cette personne préfère ne pas avoir été informée en temps réel de la dégradation de son état. Un médecin de Limoges qui était dans l'atelier nous a fait part d'un témoignage extrêmement émouvant qui était très récent en plus, concernant une personne en fin de vie à qui il a annoncé ce qui lui arrivait. Et rapidement, après coup, il s'est rendu compte il se l'est reproché en sachant dans quelle détresse cette personne était et surtout dans quel manque d'entourage elle s'était immédiatement retrouvée, surtout qu'elle était à 600 km. Enfin. Donc, autre problématique liée plus à une conjoncture précise au moment où on dit les choses. Et puis, à l'opposé, si j'ai envie de dire, un médecin de Poitiers nous a expliqué toute l'organisation en réseau du processus qui démarre dès l'instant de l'annonce et qui installe autour du patient une chaîne d'assistance où le maître mot, c'est évidemment l'humain. Cette démarche illustre la notion aussi de durée de l'annonce, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, au-delà de la phrase lapidaire qui tue, hein, qui dit à un patient, écoutez, vous avez un cancer au dernier stade, il vous reste 3 mois. Ce qu'il ne faut évidemment surtout jamais faire. L'annonce doit être évolutive et elle doit être plus un accompagnement qu'une information. Alors après, bon, j'ai ajouté 2 ou 3 petits thèmes. La dialectique de l'annonce. Ce que dit l'annonceur n'est pas entendu par l'annoncé, ça a été dit plusieurs fois. L'énormité de l'information transmise par le messager du malheur n'est pas accessible. Et puis, comment saurais-je, moi, le médecin, ce que mon patient peut entendre? Et que sais-je exactement de la suite éventuelle de son histoire? Quant à l'annoncé, que veut-il savoir exactement? Éternel problème. Après, ce qui a été dit aussi, c'est concernant la typographie du patient devant l'annonce, les mots-clés hein, qu'on a entendus qui sont typiques du processus évolutif à partir du moment où on sait. Les mots, bon, c'est sidération, déni, renoncement, colère, angoisse, silence. Le patient qui apprend la triste nouvelle est un enfant, il est incompréhensif, il est vulnérable, il est perturbé, il accuse la violence du coup, la peur du vide, il entre dans la douleur. Il mesure aussi l'immense responsabilité nouvelle qu'il doit assumer. Très intéressant. Et il finit par faire, parfois, du messager de son propre malheur, son ennemi, quand, ce n'est pas, quand il ne le rend pas responsable. Alors bon, quelques pistes d'évolution. La formulation du diagnostic appartient de fait au médecin. Ça, ça a été dit par M. Kipman de façon très claire. Elle doit être ensuite relayée dans une organisation d'ensemble qui, évidemment, privilégie la dimension humaine du problème. Alors, je vais terminer sur une boutade pour aérer un petit peu ce paysage. L'annonce a quelque chose... Ça a été dit, hein. L'annonce a quelque chose à voir avec la fameuse annonciation. Ce qui a été dit également, c'est qu'il faut s'en fabriquer une représentation pour qu'elle soit acceptable et acceptée. Alors moi, j'ajoute juste pour donner un petit mot d'esprit, c'est qu'il y a une petite nuance quand même. Pour l'annonciation, le pronostic, c'est 9 mois. Pour l'annonce, franchement, on ne sait pas quoi.
Merci, Jean. À Bernard Giraudon, qui était rapporteur de l'atelier formation.
Oui, bonjour. Donc, je précise moi aussi que je ne suis pas du tout du monde médical, mais un peu de la formation professionnelle quand même, même si c'était dans un secteur d'activité qui est loin du secteur médical, parce que je travaille plutôt avec les entreprises industrielles. Mais on a vu qu'il y avait quand même dans les approches des choses qui pouvaient être relativement similaires dans les méthodes. Donc on a listé un certain nombre de constats, parce qu'en fait l'objet était de savoir comment la formation doit évoluer, comment est-ce qu'elle peut prendre en compte le concept de médecine de la personne, donc dans la partie amont des personnes qui vont ensuite travailler sur ce secteur-là. Donc on a pas mal listé de points, de constats. Par exemple, il y a des évolutions importantes en termes de posture de l'enseignant. C'est-à-dire qu'on est passé maintenant beaucoup plus vers une posture d'enseignant-tuteur-accompagnateur que enseignant-maître-élève. On a parlé du modèle d'Hippocrate avec le maître et l'élève qui peut-être atteint ses limites aujourd'hui. Maintenant, vers quel modèle aller pour pouvoir prendre en compte donc cette nouvelle donne. A été évoquée la prise en compte et la compatibilité possible donc de la médecine de la personne et des objectifs financiers qui sous-tendent en filigrane toute cette problématique. La prise en compte de l'aidant, on avait donc des aidants dans le groupe et qui ont beaucoup parlé donc de cette prise en compte-là, et on a évoqué comment dans le système de formation cette notion était rappelée tout au cours de la formation. Alors on était, je dis pas influencé, mais il y avait pas mal de personnes de la suite de formation des soins infirmiers où je pense là il y a vraiment une prise en compte qui est certainement peut-être plus importante que dans d'autres systèmes de formation. On a fait une analogie à un moment donné entre l'acte de soigner, donc l'acte de soin avec le patient, et l'acte de former avec l'apprenant, où il y a aussi une notion de considérer que on a aussi affaire à une personne, il y a peut-être des choses à voir et de similitudes par rapport à ça. On s'est un peu interrogé aussi sur, parce que quand on veut former les personnes à la médecine de la personne, l'important est aussi de savoir sur quels critères, comment est-ce qu'on peut évaluer qu'un système est centré ou pas sur la personne. Donc là, on n'est pas allé très loin sur ce thème-là, mais c'est une question qui est souvent revenue pour pouvoir avoir tous les éléments en amont pour construire le système de formation adéquat. Alors, a été évoqué beaucoup le travail en équipe. le travail en équipe, travail en réseau, et on a regardé un petit peu ce qui existait aujourd'hui dans le système de formation pour apprendre et préparer les personnels soignants, quels qu'ils soient, au travail en équipe. Alors, on a beaucoup parlé du système de formation, alors, entre guillemets, en alternance, où il y a à la fois une formation lorsqu'on est en centre de formation et la mise en application lorsqu'on est au sein d'un établissement, quel qu'il soit, mais en situation de travail. Et donc, on est encore, alors ça c'est plus mon regard externe, beaucoup dans la formation par la pratique pour le travail en équipe. C'est-à-dire qu'on a assez peu, on le verra dans les conclusions, de modules de formation ou de parties qui travaillent sur les éléments à connaître pour bien travailler en équipe. En gros, on a dit la formation par les pairs est quelque chose qui est universellement reconnu donc dans le monde médical. Faut-il avoir un bon pair? Donc, on a donc beaucoup évoqué ce thème-là à l'aide d'exemples. Donc, il y a des personnes qui ont cité des exemples nombreux où la personne qui devait annoncer, on a eu un exemple relativement poignant par une aide-soignante qui racontait qu'un choix avait été fait de mettre une personne, soit de la maintenir à domicile, soit de la mettre en institution. Le choix avait été fait collégialement au sein d'un réseau de la laisser chez elle. Et en fait, elle est restée chez elle, elle a fumé pendant la nuit, elle a mis le feu et elle en est décédée. Donc a été évoqué le travail en équipe à ce niveau-là. C'est-à-dire que si la décision avait été prise seule, quid de la personne qui aurait pris cette décision? Donc, on a quand même, de manière un peu plus positive sur les systèmes de formation en place, évoqué ce qui était déjà fait, en particulier donc tout un module de formation à l'interdisciplinarité pour les formations donc des infirmiers et des infirmières. Et je crois, alors ça c'est sous réserve de l'exactitude de mes notes, donc depuis avril 2013, en médecine, il y a des nouvelles compétences qui ont été introduites à partir de la quatrième année. En particulier, donc le futur médecin doit être un acteur de santé publique, un coopérateur, et il est membre d'une équipe. Donc ça fait partie, a priori, donc des enseignements qui sont donnés. Et il doit avoir aussi des aptitudes de communication pour pouvoir mieux exercer. En conclusion, donc, on a rappelé que pour introduire le concept de la médecine de la personne au niveau des systèmes de formation, donc, il faut bien sûr s'appuyer sur les fondamentaux. Donc, on ne peut pas passer à côté de modules de formation ou de compétences liées à l'éthique, au respect de la personne, à la relation soignant-soigné, prise en compte de la personne dans sa globalité. Donc ça, ce sont les fondamentaux qu'il faut déjà avoir et qui devraient être généralisés à tous les personnels soignants. Et tout ça par la démarche réflexive qui, il semblerait que maintenant, elle est relativement reconnue unanimement comme étant un très bon moyen d'apprendre. Et deuxième point, c'est, je reviens donc au travail en équipe et en réseau, c'est-à-dire comment, dans le cadre de la formation, on apprend et on prépare à fonctionner en équipe, décider en équipe, oublier les positions hiérarchiques, culturelles ou avérées, pour que la décision qui est prise ou les choix qui sont faits mettent bien le patient et le malade au centre de la décision et du fonctionnement. Voilà, merci.
Merci à vous.
Bon, alors je vais vous parler de l'atelier sciences, techniques et relations, où ont été abordées l'annonce, le rapport entre la technique et la relation, les malentendus, l'arrêt des traitements en fin de vie. Étaient présents donc des médecins spécialistes, médecins généralistes, des éducateurs en service de soins pour personnes déficientes adultes et vieillissantes et parfois malades, et des IDE libérales, et une socio-esthéticienne, et psychologue et psychanalyste. Voilà. Donc c'est important parce que il y a un échantillon des soignants qui était large. Donc j'ai entendu une phrase générale qui m'a semblé importante, c'est qu'on ne peut s'occuper que de la, on ne peut pas seulement s'occuper que de la technique. Donc on peut passer à autre chose. Et j'ai vraiment entendu cette formule, on peut passer à autre chose. Donc pour moi c'était important. À cela a répondu un médecin généraliste. Il a rappelé les données, les nécessaires données psychosociales du patient et la nécessaire attention à ces données. Madame Boutin qui était présente a rappelé à ce moment-là la nécessité de travailler sur le soin psychique, puisqu'il y a un lien entre la perte de quelque chose dans la vie de la personne. Ce qui est important de reconnaître, c'est le travail pour le patient, de reconnaître cette réalité de sa situation et d'élaborer sur ce qu'il a perdu et sur ce qui lui arrive. C'est dans ce basculement qui lui arrive, dont il n'est pas toujours conscient, en passant par des étapes de sidération, de non-entendement, comme on peut dire. Mais c'est au moment de ce basculement que le soignant a un rôle très important de prise en charge et d'accompagnement. Donc aussi, à ce moment-là, les éducatrices ont souligné, et c'est important aussi, ces éducatrices de suite de soins pour adultes, que ce qui leur portait, ce qui leur amenait des problèmes, c'était en fait l'après-consultation. Or, j'ai entendu aussi tout au long de cette discussion que cette après-consultation avait des retombées et posait pas mal de questions à tous les soignants, notamment ceux qui sont en fin de chaîne, parce qu'il y a un souci, c'est l'information, la transmission de l'information, la chaîne de l'information. Et c'est posé vraiment la rupture, les absences et la rupture de chaîne de ces informations. En bout de course, notamment, donc je vais parler pour les infirmières libérales, bien souvent, on ne sait pas. On devine, on suppose, on soupçonne, on doute. On entend le patient, on lui pose des questions, on va lui demander qu'est-ce qu'il a entendu, qu'est-ce qu'on lui a fait, et à partir de ça, à nous de savoir, de se débrouiller sur ce qui se passe. Donc, ce qui laisse aussi une part de fantasme pour nous, qui aussi a ses conséquences dans la relation et l'accompagnement par rapport à cette personne. Donc il y a une nécessité de travailler sur la chaîne d'information, ce qui a été aussi supposé. On a parlé de transmission par dossier informatique, par SMS, par avertissement. Bon, à chacun de voir ce qu'il en est et ce qui peut être possible et ce que l'on peut en penser. Donc j'ai pu noter que l'effet d'annonce a une onde de choc qui donc sur le soignant, sur la famille, mais aussi sur les soignants. Et j'ai bien noté que là, le malaise général, la difficulté, était propre à tous les soignants, à tous les aidants, quels qu'ils soient, et à tout niveau de compétence. Même un soignant très hautement qualifié peut avoir aussi les mêmes problèmes que nous avons tous. Donc, à ce propos-là, a été abordée aussi la difficulté de la responsabilité des soignants qui ont des décisions importantes à prendre, que ce soit chirurgie, choix de traitement, est-ce qu'il faut prolonger ou pas. Il y a une lourde responsabilité et qui pose problème, qui leur pose problème, et les contraintes de cette responsabilité les met, les perturbe. Voilà. Donc, à la suite de ça, il se pose le problème de... Il a été... On s'est demandé si les certains dormaient bien. Voilà. Donc, le problème de sommeil de médecins décideurs. Voilà. Mais on en a peut-être dit ça un petit peu de façon légère, mais ça pose un réel problème parce qu'on n'est pas sans occulter que les problèmes de santé des médecins sont très présents, très réels, et qu'on connaît les chiffres des suicides parmi le milieu médical qui est très très élevé. Voilà. Donc c'est quand même quelque chose à bien noter. Aussi à savoir que les soignants, cela a été aussi noté, qui sont donc dans la proximité des gens, c'est-à-dire plutôt dans le domicile, sont aussi dans les mêmes... vivent les mêmes états de sidération, de colère, aussi de non-entendement, en fait, quelquefois. Donc, ils passent par aussi les mêmes étapes que le patient. Donc, c'est aussi intéressant, en fait. Voilà. Il y a, à la fin de la chaîne des informations, je l'ai dit, enfin je le redis, c'est la place au fantasme, au doute par rapport au diagnostic. Mais c'est aussi un effort à faire, et ça a été souligné aussi, pour chacun, de retrouver la capacité de développer et la recherche, et de rechercher les connaissances nécessaires. Donc ça permet un travail pour le soignant, pour les aidants aussi, pour la famille bien sûr, ce travail nécessaire d'élaboration et de création de soins, voilà. Quel qu'il soit. Hein. Ça peut être un soin technique, mais ça peut être aussi un soin psychique, en fait. Les éducatrices aussi ont souligné la difficulté pour les patients handicapés de comprendre ce diagnostic, cette annonce, parce qu'ils n'ont pas la même représentation du corps. Parfois, ils n'en ont pas, ou vraiment une représentation déficiente. Et aussi, ils n'ont pas accès forcément à la parole. Donc, aussi, le travail des éducatrices est très important et énorme. D'où leur investissement, leur implication. Elles aussi, une fois qu'elles ont compris ce qui se passe, elles ont aussi à créer une relation de soins et d'accompagnement. Donc, ce mot de création a été dit et je le souligne aussi fortement. Une psychologue psychanalyste a rappelé aussi la nécessaire analyse des pratiques pour accompagner les soignants et aussi donc le patient dans le vécu de la maladie. Il y a un réel besoin de rechercher comment se comporter quand le patient va en consultation d'annonce. Il a été sollicité aussi de demander au patient qu'est-ce qu'il a entendu, qu'est-ce qu'on lui a dit, et surtout qu'est-ce qu'il a entendu. Il a été aussi demandé, ça c'est de la part d'un médecin généraliste, que en plus des comptes rendus des traits médicaux, il aimerait bien entendre très simplement de la part de ceux qui savent qu'est-ce qui a été dit au patient et qu'est-ce que le patient a dit, tout simplement. À partir de là, celui qui est au domicile du patient peut travailler dans son accompagnement, voilà. Au-delà évidemment de la technique et de la science. Il a été aussi noté dans cette aussi par le médecin généraliste qui déplorait un petit peu quelquefois des comptes rendus d'annonces et de diagnostics qui étaient un petit peu en termes juridiques et que ça en ce moment il y avait une évolution dans ce sens-là qui le gênait un petit peu. Au niveau des... Alors, il a été aussi noté qu'il y avait différentes étapes de l'annonce et que quelquefois, ça prenait du temps. Donc, la discussion était portée sur comment se comporter quand le patient va en consultation concernant l'annonce. Alors, donc, on est vraiment dans des difficultés au niveau de l'annonce, dans un vide d'information autour de la pathologie aussi, parfois pour tous les praticiens extérieurs et au staff souvent hospitalier. Donc, concernant la science, la technique réelle et le rapport à la relation, M. Ben Sandoun a souligné de façon très agréable la symbolique de certaines techniques. Et j'ai trouvé ça intéressant, comme la technique du laser, qui sont des soins de confort après la radiothérapie, qui n'ont qu'une recherche, le bien-être du patient. Mais en fait, le laser étant, j'ai beaucoup aimé, parce que du coup, ça permet de voir sur d'autres techniques ce que ça peut apporter. C'est la symbolique du soleil, de lumière, la paix, le bonheur, en fait, et la couleur, une couleur qui peut être apportée et qui peut distiller de la symbolique au niveau du patient. Mais à ce propos, il a été dit que, et je le ressouligne aussi, que pour avoir ce genre d'accompagnement symbolique, il faut du temps, et que c'est les infirmières qui s'occupaient de ce soin. Voilà. Donc voilà, c'était une petite remarque, mais qui était soulignée quand même aussi. Après, au niveau du temps, je ne sais pas, ces infirmières ont toujours aussi le temps. Mais bon, voilà. C'est une question à poser. Il a été aussi, au niveau de la technique, il a été souligné que le chirurgien, parce qu'il y avait donc un chirurgien dans cet atelier,
devenait... Est-ce que je peux vous demander d'accélérer un tout petit peu?
Alors, juste une dernière main, que le chirurgien avait de plus en plus de spécialités et devenait de plus en plus spécialisé, donc avait de moins en moins de temps pour répondre aux questions du patient, et que c'était un réel problème quand, en plus, ce chirurgien était dans des zones géographiques isolées où les installations médicales étaient plus raréfiées. Voilà. C'est un petit peu... il a été posé la question ensuite de le problème des génomes. Est-ce qu'il fallait effectivement dire aux gens les risques que comportaient les génomes actuels? C'est une réelle question. Voilà. Bon, je peux là-dessus conclure. Après, on verra dans les questions. Voilà.
Merci. Merci. Comme hier, M. Spear a lancer, introduit les ateliers, je pense qu'il est logique de lui demander, toujours en peu de temps, là, on est dans l'urgence, j'ai envie de dire, chaque minute compte, parce que chaque minute que nous prenons pour bavarder est une minute qui vous est prise. Hein, donc, on va essayer d'être extrêmement concis les uns et les autres, mais je pense qu'il est tout à fait important que nous ayons le retour de M. Spear après avoir introduit les ateliers, comment maintenant il voit les choses.
Moi, je vais poser 4 questions en fonction de ces comptes rendus d'ateliers. La première concerne la clinique. Voilà, j'ai l'impression que la réflexion de Canguilhem, qui appelait de ses voeux une amélioration de la clinique dans le soin de la maladie, n'ont pas été suivis d'effet. Et que, loin de là, on voit la clinique reculer. Qu'est-ce que c'est la clinique? La clinique, c'est le contact réel, personnel, entre un soignant et un soigné. Et c'est un échange entre eux sur la base d'un certain nombre de pratiques. Dans ces pratiques, il y a quelque chose qui caractérise les hommes et qui s'appelle le langage. Donc, il y a des échanges langagiers, quelle que soit la gravité de la maladie, et surtout quand cette maladie est grave. l'échange de langage faisant partie de la clinique. Ce qui a été dit hier sur l'importance croissante des techniques, techniques biologiques, techniques de l'imagerie médicale, ce sont des choses positives, mais qui risquent, bien plus que qui risquent, qui aujourd'hui font obstacle à la pratique clinique, à l'activité clinique. Combien de fois il m'a été donné de rencontrer, d'assister à une rencontre entre un soignant et un soigné où il n'y avait pas de pratique clinique. Donc est-ce que la pratique clinique n'est pas une question essentielle quand on parle de clinique de la personne, de médecine de la personne? Deux, c'est la question du savoir. Ce qui a été dit dans l'atelier concernant la formation, mais dans les autres aussi à propos de la formation, sur les fondamentaux et la manière dont on répète les fondamentaux, m'interroge. Je me pose la question suivante, que je voudrais vous poser. Quand on réfléchit à la formation, on est très pris par des syntagmes obligés. On est très pris par des stéréotypes qui renvoient à des choses qu'on croit connaître. Or, c'est très difficile de réinterroger des choses qu'on croit connaître. Or, je pense qu'il faut réinterroger des choses qu'on croit connaître. Et c'est la raison pour laquelle je voudrais prendre une expression un peu différente, mais qui recouvre peut-être ce qui a été dit dans l'atelier formation. Au lieu de parler des fondamentaux, est-ce qu'il ne faut pas réfléchir à ce que la philosophie nous enseigne sur ce qu'est l'homme? Et est-ce que les médecins, les soignants, ne doivent pas penser l'homme à travers des siècles de philosophie qui nous ont dit des choses absolument essentielles qu'on a oubliées, ou qu'on a voulu oublier, ou qu'on a oublié? Je ne tranche pas, ayant lu le livre de Kipman, je ne tranche pas. Troisième question. Voilà, je crois qu'il y a une catégorie qui est absolument fondamentale et qui traverse les quatre ateliers. Mais M. Kipman l'avait dit dans son introduction, c'est la question du temps. Je suis très très sensible à ça. Et je pense qu'il y a plusieurs déclinaisons du mot temps. Quand on dit temps très vite, on ne réfléchit pas toujours à l'écart qu'il y a entre emploi du, à l'intérieur de l'emploi du temps, entre le temps contraint et le temps libre. Dans un très beau livre qui s'appelle « Marxisme et théorie de la personnalité », qui avait été publié il y a un certain nombre d'années aux éditions sociales, Lucien Sève expliquait que l'organisation du temps libre était sous la domination du temps contraint. Donc, le temps qui est laissé aux soignants, Verret le disait aussi dans le travail qu'il a fait sur le temps de l'ouvrier, le temps qui est laissé aux soignants pour essayer d'interroger la personne de l'autre, n'est-il pas sous la domination du temps contraint? Nous sommes bien contraints par les normes médicales d'interroger la biologie, l'imagerie médicale, evidence-based medicine, et de travailler avec ça. Alors est-ce que le temps consacré au malade pour parler de lui, de son histoire, de sa biographie, est un supplément d'âme? On va y faire une petite place. Ou bien est-ce que c'est ce qui organise l'emploi du temps? Je ne fais que poser la question. Quatrième question. Elle m'a été soufflée par quelqu'un qui est ici, le docteur Piketty, qui est un médecin de médecine générale ici présent. Et j'y pensais pendant les deux des ateliers, deux des comptes rendus d'ateliers. Est-ce que vous ne croyez pas que quand on mutualise des savoirs sur un patient et qu'on parle de ce patient et qu'on se pose la question de savoir comment les infirmières à domicile vont recevoir le savoir rassemblé par les soignants à l'hôpital ou rassemblé par les soignants dans toutes les moments qui ont précédé la rencontre avec le patient, est-ce que vous ne croyez pas que dans ce moment, qui est souvent une RCP, ou qui est souvent signifié par une RCP, dans la RCP, est-ce que vous ne croyez pas que le patient pourrait être présent? On parle de lui, et au lieu, est-ce qu'on ne pourrait pas penser ça? Alors, je suis d'accord que ce serait vraiment terriblement révolutionnaire et que c'est absolument insupportable de faire entrer comme ça quelque chose qui, pour l'instant,
n'est même pas envisageable. Il faut que ce soit suggéré par un médecin de médecine générale pour qu'on puisse au moins l'entendre. Que le patient soit là quand on parle de lui et quand on échange à son propos en termes médicaux.
Est-ce que je peux me permettre juste une petite par rapport à cette question qui est intéressante et qu'on peut se poser souvent. Hier, sont venues deux patientes qui ont été soignées en oncologie. Une était orthophoniste donc et aussi qui a passé par tout le parcours de la maladie, qui a beaucoup souffert, et une autre qui est en parcours. Ces deux patientes sont venues intéressées par le sujet au travers de moi, parce que je les ai soignées aussi. Et en fait, elles sont venues me dire à un moment donné dans l'après-midi, on ne peut plus supporter d'entendre. C'est passionnant, on est content de les entendre, mais on ne peut plus parce qu'on est trop impliqué. Voilà, c'est juste ce petit. Pour cette question, comment intégrer les patients dans les comptes rendus. Voilà.
Moi, je peux répondre. Je crois qu'il peut y avoir un risque, évidemment. Il peut y avoir un risque que des patients supportent mal cette présence dans une telle réunion. Moi, je reste persuadé qu'il faut prendre le risque avec des patients qui, éventuellement, ne souhaitent pas y assister et dont on respecterait le vœu. C'est-à-dire que ce ne serait pas une obligation.
Vous avez bien choisi de venir. Hein, c'était.
Bon, alors donc, nous allons passer à la deuxième phase de cette matinée. Et donc, je nous invite à une discussion générale sur tous ces thèmes, sur ce que vous pouvez dire, le bilan du congrès. En tout cas, la parole est à vous. Et pour, il est 10h20, disons jusqu'à 10h20. Voilà, 10h15 avec une marge de manœuvre. Qui veut intervenir? Ah bon, vous pouvez passer, tenez, on va vous en donner un. Qui souhaite dire un mot? Oui.
Bonjour, Franck Giraud, médecin généraliste. Je vais me rasseoir. Juste... il y a des gens qui vous disent « je souhaite tout savoir » et qui, en fait, devant l'annonce, sont perdus. Introduire un patient dans cette réunion pluridisciplinaire, c'est peut-être possible, je ne suis pas sûr. On ne peut pas passer une après-midi à dire « l'annonce est d'une violence inouïe et certains ne peuvent pas l'entendre » et souhaiter intégrer ces patients dans cette réunion où on décide des choses violentes pour elle. Alors, j'entends bien en filigrane derrière dans votre propos le fait que la médecine ne doit pas être toute puissante et exister malgré le patient, c'est-à-dire faire de lui une maladie plus qu'un homme, plus qu'un humain. Donc, c'est recevable. Cela dit, tout le monde, même ceux qui veulent savoir, n'ont pas obligatoirement envie de savoir. Donc, il faut qu'on en ait conscience, nous-mêmes. La deuxième chose, c'est sur le temps. Alors effectivement, on a tous ce problème-là du temps contraint, mais je pense aussi que ce temps libre à l'intérieur de notre métier, c'est aussi un temps angoissant. Hein, ce silence face à un malade, on peut parfois avoir envie de le remplir plutôt que laisser des temps dans la consultation. S'arrêter et puis laisser simplement le malade dans ce silence-là. Il arrive des choses incroyables, mais c'est difficile à supporter. Arrêtez de parler 30 secondes devant un malade, et puis ne bougez pas, vous allez voir. Alors, ça se déverse, hein, ça se déverse, mais il faut le supporter. Et parfois, le temps contraint, c'est aussi un remplissage de nos vies, hein, pour se protéger, voilà, de ce vide.
Voilà. Merci. Oui. D'accord.
Alors, pour faire écho à ce que vous venez de dire, hier j'ai entendu une phrase qui me semblait très intéressante. C'était celle d'accompagner dans toute son impuissance. Puisque comme vous venez de dire, des fois on entend un témoignage, on voit une personne en train de souffrir, et c'est insupportable à juste à observer. Et donc pour se libérer de ça, on aurait envie d'agir et de faire quelque chose, au moins pour être dans l'action, ce qui permettrait de se libérer de ce malaise. Et c'est là que je trouve que c'est important, comme vous disiez, de s'arrêter et d'écouter, avec toute son impuissance, puisque des fois, bon, on ne peut rien faire. Voilà. Ça, c'était pour faire un premier écho. Et il me semble aussi que dans ce congrès, on parle beaucoup de communication, puisque la communication, c'est ce qui va permettre de s'harmoniser vers un patient. C'est ça qui permet de se centrer sur lui. On parle de communication au moment de l'annonce et on parle aussi beaucoup d'écoute. Très bien. Donc voilà.
Merci.
Non, je voulais juste compléter par rapport au RCP. Effectivement, à l'Institut Gustave Roussy, les RCP, dans la majorité des localisations tumorales, se font en présence du patient, qui c'est très bien au niveau médical, puisque chaque médecin spécialiste voit le patient et donc il y a une discussion générale. L'évolution des choses est assez intéressante, puisque actuellement, la phase de discussion sur le cas se fait sans le patient. Il y a une phase où, y compris la discussion, se faisait en présence du patient, avec quelques difficultés par rapport effectivement à la présence ou pas du patient. Actuellement, il n'y a plus le patient et le patient rentre après pour la conclusion, ce qui pose d'autres problèmes d'angoisse, du temps passé sans lui, etc. Donc là, il y a toute une discussion actuellement. Qu'est-ce qui est le mieux ? Effectivement, la discussion complète en présence du patient est certainement très difficile, mais son absence pendant une partie de la RCP, pendant la discussion entre spécialistes, est également peut-être discutable. La participation du patient à la discussion pourrait être intéressante. Il n'y a pas de solution idéale, mais vous voyez, même dans la présence du patient, ça peut être source d'angoisse selon les cas. C'est souvent des patients qui viennent de loin avec la famille, etc. Voilà, c'est juste également un domaine de réflexion.
Oui, j'ai une petite réflexion qui me vient comme ça. Hein. Spire, vous parlez de RCP comme si ça allait de soi. Eh bien, on est complètement dans le problème. On est complètement dans le problème. Hein. Nous parlons aux patients comme si ça allait de soi, mais ça ne va pas de soi pour eux. Hein. Donc, c'est un effort que nous devons faire sans arrêt. Oui. Quelqu'un le micro, vas-y.
Merci de cette question, parce qu'effectivement, cette histoire de RCP, c'est ce que j'allais demander en premier, mais enfin, bon, voilà. Je ne sais toujours pas ce que c'est d'ailleurs, mais c'est très bien. Au moins, je sais qu'on est plusieurs à ne pas savoir, ce qui est très soulageant. La deuxième chose.
Réunion de concertation pluridisciplinaire, ça fait partie de l'annonce.
Voilà. D'accord. Donc, l'autre chose, c'est qu'il me semble que là, on touche, par cet exemple comme ça, cette absence de la présence, on touche du doigt un des problèmes qui est le fait qu'on ne prend pas en compte à quel point les praticiens de terrain se posent des questions pratiquement. Par exemple, on supputait que la question de la présence des patients au RCP était une question que les vrais spécialistes ne se posaient pas. Or, il se trouve qu'à notre droite, là, on a un vrai spécialiste qui non seulement nous dit qu'ils se posaient la question, mais même qu'ils ont été au-delà, puisqu'ils l'ont rendu tellement compliqué que c'est difficile de décider. Et je me demande si on n'est pas là, au fond, en train de comprendre un des mécanismes qui rend si difficile, au quotidien, de se poser des questions auxquelles on ne peut pas répondre, parce que c'est trop compliqué. Et qu'au fond, s'il y a quelque chose de spécifique à la personne Saint-Denis, à leur centrage sur la personne, c'est le fait que ça nous embête, nous complique la vie, parce que ça pose des questions dont il n'est jamais possible de sortir par le bien et le mal. On est tout le... Voilà. Autrement dit, comme disait quelqu'un, la centrage sur le patient, c'est sur la personne, c'est le centrage sur la complexité de la personne et sur la complexité des questions qui se posent quand on introduit cette variable épouvantable. Épouvantable. La médecine serait beaucoup plus simple si, comme certains d'entre nous, il n'y avait pas de malades, et surtout si en plus ça ne nous touchait pas, c'est-à-dire si on était immunisé contre le fait d'être malade, c'est-à-dire comme si, en étant en RCP comme professionnel, on était immunisé contre le fait de l'attraper, le RCP, ou les raisons de l'avoir. Donc voilà, on a là quelque chose qui me semble être clairement, et je trouve que la réponse de monsieur est formidable, parce qu'elle démontre à quel point on se fait des idées sur la façon dont les gens rejettent les vraies questions, parce qu'on se fait des idées sur la façon dont ça serait simple de régler la question si on se les posait.
Voilà.
Oui, moi, je suis généraliste, et donc la proposition du docteur que vous avez cité tout à l'heure m'a plu, mais en fait, je pense que on parlait de biographie, et l'infirmière tout à l'heure disait qu'elle n'était pas au courant, qu'elle essayait de deviner quand elle arrivait chez un patient. On pourrait imaginer que dans cette RCP soit invité ou l'infirmière ou le médecin traitant qui, eux, apporteraient aux spécialistes d'organes et de maladies toute la biographie. Et notamment ce que disait le généraliste tout à l'heure, de savoir est-ce qu'il peut entendre ça. Enfin voilà, on connaît les généralistes, je suis généraliste, on connaît les patients et on sait comment ils fonctionneraient. Ça serait performant. Voilà. Alors, inviter le patient à la RCP ou à la consultation d'annonce, venir avec son généraliste ou son infirmière, je pense que ce serait intéressant.
Je voudrais juste répondre à ce confrère. Je suis médecin généraliste. Je trouve extrêmement violent de vouloir que la biographie, je ne sais pas ce qu'on met là-dedans, soit connue par tout le monde. Parce que M. X va me raconter un pan de sa vie qui va m'éclairer sur son rapport à la maladie. Il n'est pas du tout évident qu'il ait envie de le raconter à l'infirmière ou au cancérologue, puisque je suis choisi comme étant ce témoin privilégié. Ou inversement, il peut dire des choses à quelqu'un d'autre. Alors, dans une imagination, ça serait effectivement extraordinaire qu'on puisse avoir accès à ça, mais quelle est la part de l'intime? Deuxième, et juste une autre réflexion qui ne demande pas de réponse, je suis extrêmement intéressé parce que dans tous les ateliers, on a tous parlé de l'annonce.
Merci. Oui, les choses sont complexes et les soignants se posent beaucoup de questions. Alors, est-ce qu'il n'y a pas obligatoirement un moment où les soignants ont à parler entre eux? Est-ce que on n'est pas quelque part dans l'idée de la transparence absolue de l'activité médicale et est-ce que ce n'est pas un leurre?
Moi, je voulais juste rebondir deux minutes avant sur les RCP. Dans le VIH, sur Orléans, par exemple, les RCP, l'infirmière du réseau participe, l'assistante sociale du service. Donc, ce n'est pas une RCP pluridisciplinaire de médecin à médecin avec des catégories différentes, mais bien infirmière de ville. Il y a une infirmière libérale qui représente le réseau et qui représente éventuellement les infirmières libérales, qui peut, du point de vue de l'infirmière libérale, se poser des questions concernant le patient et sa biographie. Et inversement, le réseau est invité et il y a même des associations de patients, donc l'occurrence c'est Aide sur Orléans, qui participent au RCP. Hein, voilà. Donc je crois que effectivement le patient n'est pas présent, mais il y a un certain nombre de personnes qui peuvent éventuellement interpeller les professionnels sur l'introduction d'un traitement et la prise en charge.
Il me semble quand même qu'en ce moment, je suis généraliste, hein, on ne parle que de situations extrêmes et qu'on parle des RCP, mais dans la pratique quotidienne, nous nous réunissons régulièrement dans les réseaux de gériatrie chez les patients pour mettre au point plein de choses avec les représentants des conseils généraux, les organismes payeurs, les généralistes, les infirmières, les aides-soignantes et aussi les auxiliaires de vie qui sont très près des patients car elles regardent dans les frigos. Et ça, c'est très important. Je pense que c'est à la base que ça se passe. C'est près des patients et c'est celle-là qui nous enseigne des choses. Et si on les écoute pas, on se plante. Ces réunions-là sont très importantes et nous les pratiquons dans le désert du nord des Deux-Sèvres régulièrement pour le bien-être de nos patients.
Juste pour compléter, moi je suis diététicienne, donc c'est encore autre chose. La meilleure façon d'approcher un patient par rapport à son intime, c'est de ne pas connaître son dossier. Alors là, on a une écoute qui est complètement différente. Voilà, c'est tout. On met peut-être un peu plus de temps, mais l'alimentation faisant partie de l'intime, voilà. Ne pas connaître le dossier, c'est encore autre chose.
Oui. Moi, je veux bien vous dire une petite vignette. Alors, je ne sais pas si c'est anti-RCP ou pro-RCP, mais la scène se passe à La Rochelle, service de gérontologie. Le chef de service était là hier, mais je crois que Jean-François n'est plus là aujourd'hui. Il raconte une histoire que je raconte depuis 10 siècles, parce que tellement elle est drôle. Une dame dans ce service de long séjour ne parle plus depuis 10 ans. Sa pile meurt. Question de tout le service, est-ce qu'on lui change sa pile? Elle a 90 ans, elle ne parle pas depuis 10 ans. Et une aide-soignante, soit qui n'avait pas entendu, soit qui n'avait pas bien compris, dit, bah, faut lui demander. Et toute l'équipe est allée auprès de la malade, à qui on dit, votre pile est morte. Et la malade, pour la première fois depuis 10 ans, ouvre la bouche et dit, bah, si elle est morte, faut la changer.
Oui, bonjour. Moi, je voulais revenir sur l'annonce, en fait. J'ai entendu beaucoup de discours sur l'annonce et je conçois qu'il fallait s'interroger sur nos pratiques. Cela dit, je n'ai pas beaucoup entendu, suite à l'annonce, des discours disant que ça va redonner un sens à la vie aux personnes qui étaient annoncées. C'est-à-dire que moi, pour avoir fait du soin palliatif, j'ai vu des personnes qui, lorsque l'on a annoncé une maladie grave, ont réalisé des rêves qu'ils ont toujours voulu réaliser, se sont rapprochés de personnes avec qui ils s'étaient très éloignés. Et moi, ça me renvoie à la responsabilité, c'est un mot que je n'ai pas non plus entendu, à la responsabilité que nous avons, nous, en tant que soignants, d'annoncer une maladie grave. La personne, elle en fera ce qu'elle en veut, on sera là pour l'accompagner. Elle pourra mourir dans le déni. Pour moi, c'est un signe de bonne santé, le déni. C'est un médecin qui baisse les yeux pour annoncer un cancer, c'est un signe de bonne santé. Et je voulais revenir aussi sur une corrélation qui n'a pas été faite et qui va peut-être déplacer un peu le débat. Je voulais savoir ce qu'on fait de la mort dans nos sociétés. Je voulais savoir à quel âge on commence à en parler. Je voulais savoir à quel point L'Oréal va créer des crèmes qui vont nous faire vivre plus longtemps. Et peut-être que quand on parle de formation, moi j'entendrai plus de parler d'éducation dès le jeune âge et que ce travail en amont aidera plus facilement le jour où il faut faire une annonce. Voilà.
Merci. Merci à vous.
Moi je voudrais dire deux choses. La première, c'est sur... c'est revenir sur cette question de la présence du patient. Il ne s'agit pas absolument pas de parler devant le patient de la biographie par bribes, chacun ayant eu des bribes de la biographie de ce patient. Il s'agit de laisser le patient faire pour ce qui est de sa propre biographie devant tout le monde, de dire ce qu'il veut, à qui il veut, devant le collectif. C'est comme ça que je l'ai vu faire. Et puis ensuite, les médecins qui discutent de ce qui est possible... Au lieu de faire, comme j'ai vu dans certaines RCP, alors excusez-moi, mais quand on a l'habitude de ce genre de réunion, on les appelle tous des RCP, c'est-à-dire des réunions, au fond, où il y a des gens qui ont des pratiques différentes et qui tous rencontrent différemment le patient et qui donc sont habitués à le rencontrer, en général, ça se termine par « et qui va lui faire avaler la pilule ?» Je sais pas, 100 fois, j'ai vu une RCP terminée par « et qui va lui faire avaler la pilule ?» C'est-à-dire la pilule de ce qu'on voudrait faire avec lui par la suite. Alors, plutôt qu'on ait cette phrase qui termine la RCP, je me dis que c'est pas mal que le patient puisse entendre ce qui a été dit par les uns et par les autres et dire comment il voit, lui, son avenir compte tenu de ce qui a été dit. Deuxième question, sur la question de l'annonce, là, ce qui a été dit sur l'annonce tout à l'heure. Moi, je crois que c'est la question du tournant biographique. Je n'ai pas le temps d'expliquer comme ça en 3 mots ce que c'est un tournant biographique, mais il y a un tournant biographique à faire pour le patient. Comment fait-il ce tournant biographique? Qui l'y aide? Dans quelles circonstances? En face de l'annonce, qu'est-ce qu'il veut faire? Je crois qu'avant de nous interroger sur ce que nous, on doit faire, il faut surtout laisser la place à ce qu'il veut faire, si on fait de la médecine de la personne. Et la troisième et dernière remarque que je voudrais faire, c'est sur le rapport entre la mort et la vie.
Moi, je continue à penser que la mort fait partie de la vie. C'est un élément extrêmement important. Mais on ne peut pas bousculer autrui pour introduire la mort dans la vie. Il faut aider autrui à prendre conscience que la mort fait partie de la vie. Et pour cela, les soignants ont un rôle en parlant peut-être avec le patient de leur propre mort.
Oui, moi, je me dis qu'on a beaucoup parlé. Enfin, je pense qu'on a beaucoup parlé de l'annonce au niveau médical depuis hier. On ne s'est pas intéressé à la. On a parlé de l'annonce du plan cancer, petit 1, l'infirmière, deuxièmement, l'aide-soignante, et l'assistante sociale et tout ça. On ne s'est pas intéressé. Oui, mais on a parlé de la consultation d'annonce. Le cancérologue annonce la maladie ou le traitement. Mais on ne s'est jamais intéressé derrière à qui venait derrière le médecin oncologue, l'infirmière de consultation. On n'en a pas parlé. J'ai été 10 ans infirmière de consultation et je peux vous dire que c'est un rôle extrêmement important. Alors, à Poitiers, c'est très normé, l'infirmière de consultation assiste à la consultation d'annonce avec l'oncologue, donc elle a des informations sur la bibliographie. Ça lui permet de revoir le patient et de poser les choses. Et je peux vous dire que le patient, quand il arrive avec l'infirmière, il a une liste de questions qu'il n'ose pas poser au médecin, parce que le médecin, c'est une entité et qu'on est plus à l'aise avec une infirmière pour poser la question. Et la question du devenir, du temps qui reste à vivre, de comment je peux faire ma vie, qu'est-ce que vous me conseillez ? Toutes ces questions-là, c'est l'infirmière qui l'a. Et là, eh bien, on fait avec ce qu'on a parce qu'on n'a pas de formation là-dessus. Et c'est notre propre vécu et nos propres... Ce qu'on a dans les tripes, moi j'avais eu un DU de soins palliatifs qui m'a énormément aidé à entendre les questions, à remettre la question dans son sens, d'entendre qu'on ne veut pas perdre ses cheveux, de savoir pourquoi on ne veut pas perdre ses cheveux. Parce que peut-être qu'il y a le mariage de la fille dans 3 semaines et que personne s'y est intéressé et que là on va revoir l'oncologue. Je peux vous dire que cette consultation est hyper importante et ce que je regrette, c'est qu'elle n'a pas lieu quand on annonce une récidive ou une fin de traitement. Je suis passée de l'autre côté de la barrière. Maintenant, je suis infirmière coordinatrice à domicile. J'ai appelé une famille vendredi pour la prendre en charge pour son hygiène. Et on m'a dit, j'ai eu une mauvaise nouvelle. Je savais que cette personne allait au PRC. Et c'est PRC, RCP, voilà. Pôle régional de cancérologie. Je savais. Et la dame m'a dit, on a eu une très mauvaise nouvelle. Je pense qu'on a arrêté le traitement, vu comme ça. Je vais aller la voir mardi et je pense que je ne vais pas faire une consultation. Je ne vais pas parler de la prise en charge, ou je vais en parler de la prise en charge par le SIAD, les aides-soignantes et tout ça. Mais je pense que je vais me retrouver dans une position d'infirmière de consultation ou de post-annonce où je vais reprendre les choses et avec ce que le patient me dira, puisque je n'aurai aucun dossier. Et je pense que c'était fort important. Par rapport à ce que vous avez dit, par rapport à la mort, je pense que nous tous, citoyens, nous devons éduquer nos enfants par rapport à la mort, et ça ne se fait plus.
Merci. Merci. Donc, voilà. Compte tenu de l'heure, on ne va prendre plus qu'une ou deux questions. Parce que... Oui. Ne vous inquiétez pas, c'est noté, mais j'annonce qu'on ne prendra plus que quelques questions. Voilà, j'annonce.
Oui. Je voulais juste dire qu'on pourrait peut-être être un peu plus humble par rapport à l'effet d'annonce dont on parle, parce que je pense que avant même qu'un malade entre dans le cabinet d'un médecin, il a déjà ce qu'on peut appeler la jeunesse des souffrances, c'est-à-dire qu'il est déjà plein d'angoisse à l'idée de ce qui pourrait se passer. Il ne faut pas oublier toute cette période d'incertitude, d'investigation, où déjà le malade est extrêmement angoissé. Soyons humbles. Alors, si on reprend ce qui se passait il y a 30 ans, moi, quand je rencontrais des malades dans les chambres, puisqu'à l'époque, c'était la relation paternaliste, et donc on était dans le mensonge idéologique, c'est-à-dire qu'on ne disait jamais rien, le nombre de fois où, quand moi, jeune psy, j'allais voir un malade et qu'il me disait, presque avec une petite mimique, « Vous savez, mademoiselle, madame, je sais bien, j'ai la maladie. Hein ?» rien n'était dit. Donc soyons un peu humbles, parce qu'au-delà de ce que vous dites ou vous ne dites pas, le malade lui-même se fait déjà une idée, et quand vous lui dites des horreurs, heureusement que parfois certains ont des mécanismes de défense pour se protéger de ce que vous leur assénez, par exemple, comme condamnation à mort, c'est-à-dire il n'y a plus de traitement pour vous. Hein, voilà, c'est juste ce que je voulais dire.
Oui.
Oui, allez-y. Ibarge.
Je voudrais intervenir aussi.
Près de votre bouche.
Je quitte un peu le patient, enfin. Je ne le quitte pas, on est en parallèle quand même. Mais pour parler un petit peu plus du soignant, hier on parlait de formation bien faite, moins faite. Enfin, ça manquait pas, ça faisait... Bon, moi je pense aussi sur la formation. J'ai une formation d'infirmière, ça n'existe plus. Je suis infirmière en psychiatrie, ça se fait plus ça. Donc voilà, je suis diplômée depuis 78 et après, bon, ça a changé cette formation infirmière. Donc je suis infirmière en psychiatrie. C'est vrai que moi je dis, on a un diplôme de base. Alors bien sûr, tout est critiquable. Il est bon, il n'est pas bon. En tous les cas, on l'a choisi et on le passe. En ce qui me concerne, c'est vraiment ce que je voulais faire. Donc j'ai mon diplôme de base et après j'avance avec le patient. Ce qui fait que j'ai envie de cette formation-là ou je n'ai pas envie de cette formation-là. Alors après je peux me l'offrir ou l'hôpital peut accepter de... Mais donc parce que la formation c'est aussi un coût hein, pour un soignant. Enfin, donc on avance. On avance avec le patient. On avance, nous aussi. À 20 ans, je n'avais pas les mêmes idées de formation et les mêmes idées de prise en charge du malade comme je l'ai aujourd'hui. Donc, on avance. Je crois que les formations, c'est aussi se replacer dans la relation à l'autre, mais se replacer nous aussi. Qu'est-ce qu'on devient à un moment donné ? Je trouve que les formations, il y a quelque chose pour moi de magique dans le sens où quand on pratique sans arrêt, on a un peu la tête dans le guidon, on avance et tout d'un coup, la formation nous fait s'asseoir, nous fait réfléchir. Et donc, du coup, on revient et on se dit, bah, tiens, ma pratique, elle n'est pas si mauvaise que ça, c'est exactement ce que je faisais. Ou ma pratique, il faut que je la réajuste. Et donc, ça nous permet aussi, moi, ça m'a permis aussi de rester dans mon rôle. Parce que souvent, on me disait, mais pour qui tu te prends de penser ça ou de faire ça ? Eh bien, je me prends pour une infirmière, point à la ligne. Je ne me prends pas pour un médecin parce que je viens d'aller en formation où on a parlé un petit peu de la génétique, de la neurologie, de la... Mais ça m'a permis d'avancer et de penser le patient. C'est vrai que le patient, ce n'est pas une neurone, un cœur, un poumon. Mais n'empêche qu'il faut bien qu'on sache comment ça fonctionne quand même un peu pour après prendre en charge. Enfin, moi, je le vois comme ça. Et ça me replace dans mon rôle et ça me replace aussi dans mon équipe. Alors, on est accepté ou pas hein ? Maintenant que je prends de l'âge, on me demande si je ne suis pas bientôt à la retraite. Évidemment, on gêne de parler de choses de la personne. Parce que, comme vous dites, il faut du temps, il faut des réunions, il faut resituer les choses, et puis il faut peut-être s'oublier un petit peu. Moi, je me demande aussi, je suis venue à cette formation ce week-end. Bon, pour X raisons, je sais bien pourquoi je suis là. Mais en même temps, je me disais, est-ce que quand j'entendais tout le monde, je me disais, est-ce qu'on n'a pas aussi un peu de culpabilité de ne pas bien faire ? Est-ce qu'on n'a pas aussi, toujours dans notre petit coin de tête, notre toute puissance de soignant ? Hein ? Est-ce qu'il n'y a pas tout ça un petit peu mélangé ? Et donc, c'est pas mal et je trouve que ce colloque est quand même... Enfin, ces deux jours sont très intéressants. Merci.
Oui.
Oui, alors ben, je vais me permettre de prendre le fil qui est tendu puisque je suis aussi infirmière de secteur psychiatrique, même si je suis formatrice cadre de santé. Hier, la journée a commencé en parlant de la notion de personne médecine de la personne. Il y a eu un échange hier matin qui était la notion entre médecine et santé. Est-ce qu'on est sur médecine de la personne ou santé de la personne? Pour moi, c'est toujours une interrogation. Pour moi, la dimension médecine est médicale. Et je n'arrive pas à raisonner que médecine. Moi, je raisonne santé. Ensuite, il y a cette notion de personne. Lorsque j'écoute les débats depuis hier, lorsque j'étais sur le groupe formation, on a introduit les notions de réflexivité. Je crois que les soignants, on est aussi des personnes. Par moments, on est aussi malade et par moments, on est aussi patient ou impatient. Tout dépend du contexte. Et dans toutes les interventions que j'entends, selon la posture qu'on a à un moment donné, on va parler de personne, on va parler de patient ou on va parler de malade. Et ça, ça m'interroge énormément parce qu'on a commencé avec la médecine de la personne et en permanence, on est avec cette notion de patient. Quelle place on donne, comment on le met au centre s'il est patient? Pour moi, c'est une véritable interrogation. Si on parle de personne, c'est une personne qui a une maladie, qui peut avoir une pathologie, qui va avoir un comportement, mais qui est entière dans sa globalité. Si on parle de patient, déjà, on a une représentation. Si on le situe comme un malade, on est déjà avec un diagnostic. Et ça, ça m'interroge. Voilà, c'était juste ce propos.
Merci, madame. Professeur Mézich.
Semi-simultané.
Bonjour.
Là, en plus, vous allez assister à un exercice de voltige. Très bien.
I'm very impressed with this Congress. And I did beautiful photograph. And in a contextual way, I think allegorizes that the success of this Congress, not only in terms of many people, but interest and depth of the discussions.
Donc il est très, très content de ce congrès. Il voit dans cette photo une allégorie de ce qu'il s'y passe autour des échanges, non seulement du nombre, mais aussi de la qualité, de la profondeur des échanges.
And as we know, there are several French groups that are working along the lines of person-centered medicine.
Il y a plusieurs groupes français qui travaillent dans la ligne de l'observatoire.
Although they tend to be more in the psychiatric perspective, and this is a broader one, and therefore it makes a very special contribution to person-centered medicine.
Donc il y en a qui sont plus centrés sur la psychiatrie des groupes, et d'autres comme l'Observatoire qui élargissent beaucoup la question et la rapprochent de ce concept de médecine de la personne.
So I would like very much to invite all of you from Dr. Daniel Kiffman to everybody to be active and involved in this broader international effort to build not only a professional perspective but kind of a new philosophy of life of looking at health as a human concern that represents both a right as well as a responsibility for each one of us.
Donc il invite tout le monde à se rapprocher de Daniel, de l'Observatoire, pour travailler ensemble à cette perspective plus large, internationale, qui est plus que simplement un regard sur la seule médecine, mais véritable perspective au fond de vie, d'être vivant et d'être dans le monde, en quelque sorte. Qui est cette perspective qui fait passer la santé pour quelque chose, qui met la santé à la place d'un souci central et essentiel pour chacun des êtres humains. Quoi.
Dr. Kiffman already has a special place within the International College because of his involvement in such a distinguished way for many years.
Daniel Kiffman a déjà une place importante dans ce collège international.
And I would like very much that to see, for the benefit of the international friends and participants, a number of practical steps that perhaps could be considered.
Et il aimerait voir un certain nombre de d'autres étapes considérées et élargies, et la participation des collègues élargie.
Well, including as I have the pleasure of meeting the former dean of the medical school to see the possibility that the medical school here in Poitiers formally co-sponsors our movement, as many other universities around the world have already done.
Là, il invite le doyen de l'université de Poitiers à considérer l'idée de rejoindre nombreuses autres universités qui ont déjà parrainé d'une certaine manière au moins certains événements du collège, comme le congrès de Genève.
And not only the Faculty of Medicine, but perhaps the School of Nursing and other fields that are so well represented in this Congress.
D'accord. Tout, pas seulement les médecins, bien entendu, mais aussi les formations et les enseignants autour de la des infirmières de sciences infirmières.
After all, the international colleges not only includes the World Medical Association and the World Health Organization, but also the International Council of Nurses, International Federation of Social Workers, International Federation of Pharmacists, etc.
Le collège international n'inclut pas seulement l'Association mondiale de médecine, mais également des associations comme l'Association internationale des infirmiers, les pharmaciens, les travailleurs sociaux, etc. Et les patients, les associations de patients aussi.
Right, that's very important. As well as also associations of families.
Et les associations de famille, pas seulement des familles de malades mentaux, mais aussi de familles de patients, de carers.
So I was very happy also to see some colleagues representing a member, very active members of the Paul Tournier Association.
Il était très content de rencontrer des gens qui étaient activement engagés dans l'association Paul Tournier, dont le monsieur qu'il désigne, voilà.
So in practical,
qui était, il vous a dit, fondateur du terme en quelque sorte.
Il y a plusieurs fondateurs du terme, c'est ça qui est embêtant.
C'est-à-dire à peu près tous ces différents fondateurs du terme reconnaissent Paul Tournier comme le fondateur du terme. C'est la seule chose qui le désigne comme tel.
So in practical terms. I would be very pleased if many of you would become members of the International College of Person-Centered Medicine.
Il invite les gens à être membres, à devenir membres de ce collège international.
And membership, presently, there are no fees involved.
C'est une inscription gratuite, donc assez économique.
Except expression of interest and commitment in two forms. One is to attend at least one of our events.
Le seul engagement, c'est d'assister au moins à un événement, c'est même pas un par an, au moins un événement.
And to subscribe to our journal, the International Journal of Person-Centered Medicine.
Et diffuser la souscription du journal, l'International Journal of Person-Centered Medicine, en anglais.
Right. We have our next Geneva conference at the end of this April, and every year we plan to have it. I'm sorry.
Okay. Yes, I just want you to be sure as possible.
Yeah. Well, that was my last part. So
So you were joining him.
The next Geneva conference.
La prochaine conférence est à la fin du mois d'avril, du 27 avril au 29, à Genève. Oui, pardon. So et c'est en anglais, bien que ça soit dans un pays francophone.
I have learned a lot from this meeting. I have met many new friends, and I look forward to cultivating both these social contacts as well as institutionally to move forward internationally in this way.
D'accord. Okay. Donc il est très content des rencontres qu'il a fait, et il espère beaucoup s'appuyer, pouvoir faire cultiver ces échanges tant amicaux que scientifiques qu'il a pu nouer ici.
Merci beaucoup. À bientôt.
Merci. Pardon, monsieur. Attendez, je vais aller.
Bien, donc, autre exercice de voltige. En une demi-heure, il faut que je vous parle, et je vais essayer de vous parler, je vais prendre quelques précautions oratoires. Je vais essayer de faire mon bilan strictement personnel et affectif de ce congrès. Je vais essayer de synthétiser tout ça autour de ce qu'est, de ce que je crois être la médecine de la personne. Je dis bien ce que je crois, il y a de la conviction là-dedans, il n'y a pas seulement de l'objectivité. Et quatrièmement, je vais faire mon numéro de Père Noël ou je ne sais pas quoi, en vous donnant toutes les contraintes et toutes les demandes et tous les besoins qui se sont révélés au cours de ce congrès et dans les semaines qui l'ont précédé et qui nous donnent un travail de dingue. Donc, je vais essayer de suivre ce plan-là le plus rapidement possible. Alors, les précautions oratoires, elles sont que, effectivement... mais on les a vus à l'œuvre tout au long de ces réunions. Il y a un problème de langage et de langage qui cache probablement une forêt, enfin un arbre qui cache une forêt. Il y a un problème de langage, on l'a vu à propos de RCP ou de n'importe quoi. On fait tout ça, on a notre jargon et on pense que notre jargon est un langage. Eh bien non, un jargon c'est un jargon et un langage c'est un langage, c'est pas la même chose. Et que donc, dans toute relation, quelle qu'elle soit, mais a priori, dans ces relations éminemment chargées d'affect, de souffrance, de douleur, d'attente, de besoin, il faut se trouver, et c'est le premier temps, se trouver un langage commun. Se trouver un langage commun, ça n'est pas se trouver un sabir, ça n'est pas se trouver... allons-y, ça n'est pas se trouver l'anglais des congrès qui est une espèce de langue cargo comme ça où personne ne dit clairement ce qu'il a envie de dire parce que c'est... Il faut se trouver un langage commun et ça, il n'y a qu'une manière de le faire. Il n'y en a pas 25 000. C'est se frotter les uns aux autres. C'est être en constante proximité, encore un mot-clé, proximité les uns avec les autres. Il n'est pas question d'informer, de former ou d'assujettir qui que ce soit à ma propre pensée. Il est question, moi médecin, moi consultant, moi intervenant, moi d'essayer de me mouler dans ce que je crois être le langage de l'autre. Donc, tous les beaux discours, et à la fois, je suis ravi de n'avoir qu'une demi-heure, et en même temps, je me rends compte que je suis en train de faire un discours, c'est bien de ça qu'il s'agit. Il s'agit non pas d'asséner à qui que ce soit des vérités, quelles qu'elles soient, il s'agit, et Spire l'a bien dit, il s'agit d'accepter ensemble des questions que nous n'arrivons pas à résoudre tout seuls. Point. Et non pas le regard des autres, mais l'attention des autres, la présence des autres, vient comme une nécessité impérieuse. Et c'est pour ça. Bon, alors voilà. Exactement les difficultés de l'exposé que je suis en train de vous faire. Et c'est pour ça qu'au niveau de l'Observatoire, on a essayé de mettre en place un certain nombre de choses, mais ça, je vous en parlerai tout à l'heure. Voilà. Deuxième niveau, il est évident que, et je crois que c'est Brigitte qui le faisait remarquer, est-ce qu'il y a une théorie de la médecine de la personne? Est-ce qu'il y a une théorie de la médecine de la personne? Et là, merveilleuse, merveilleuse réponse. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais pour moi, mais parce que probablement j'y travaille depuis un certain temps, que j'ai l'avantage à la fois d'être vieux et de radoter, mais c'est que pour moi, la réponse merveilleuse, c'est oui et non. C'est oui et non. Bien sûr qu'on a des éléments de théorisation, et on en a plein, et on a des expériences qui font que ces éléments de théorisation se sont mis en place, mais on n'a certainement pas une théorie aboutie. Et heureusement qu'on n'a pas une théorie aboutie, parce que si on avait une théorie aboutie, on penserait qu'il faut la graver dans le marbre une fois pour toutes, et que maintenant, on va en finir avec cette vieille médecine ou ces vieux systèmes qui sont... Mais il ne s'agit pas d'ériger un monument contre un autre. Il ne s'agit pas... Il s'agit de faire vivre, puisque ça, c'est un mot qui est revenu tout le temps, il s'agit de faire vivre une médecine. Et quand je dis médecine, c'est au sens le plus large possible. Hein, un souci de santé ou de... Bon, allons-y, il y a des gens qui n'aiment pas le souci de santé. Un souci de meilleure santé qu'aujourd'hui. Voilà, comme ça, on est tranquille. Un souci de meilleure de santé qu'aujourd'hui, de le faire vivre dans la vie quotidienne, la nôtre, celle des autres et celle de nos descendants. Quelqu'un parlait d'héritage, je ne sais plus quand. Donc, on est dans cette espèce de nécessité de se trouver... des modèles, d'une part, et comme on le sait, les modèles, ils sont pratiques, ils rendent compte d'un certain nombre d'éléments partiels à un moment donné, mais les modèles sont jetables, et à partir de ces modèles, d'élaborer une théorie générale du système, comme on dit, une théorie générale qui essaie de rendre compte, à travers quelques paradigmes, à travers quelques postulats, et à travers quelques lois simples, de l'ensemble des faits qui concernent notre objet. Alors, quel est notre objet? Quel est notre objet? Quel est l'objet d'une médecine de la personne? Qu'est-ce que ça veut dire, une médecine de la personne? Ça ne veut rien dire. Enfin, c'est une espèce d'incantation. C'est Didier Sicard qui disait « Méfiez-vous des incantations ». Ben oui, c'est une espèce d'incantation à quelque chose dont personne ne sait très bien ce que ça veut dire. Bon, donc, on peut se lancer dans les dictionnaires. Tout ça. Qu'est-ce que c'est que la médecine et qu'est-ce que c'est que la personne? Et qu'est-ce que c'est qu'une médecine de la personne? Vous voyez déjà le truc qui s'enclenche. Eh bien, j'ai envie de vous poser la question à l'envers. Et c'est celle qui vient là, qui venait tout à l'heure et qui revient d'une manière ou d'une autre dans toutes les discussions qu'on a. C'est pas qu'est-ce que c'est que la médecine, ça c'est un problème pour les ministres. C'est qu'est-ce que c'est, ou pour les politiques, ou pour les... Enfin, qu'est-ce que c'est qu'un médecin, qu'est-ce que c'est qu'un soignant, et qu'est-ce que c'est qu'un malade, et qu'est-ce que c'est qu'un aidant naturel, hein, qu'est-ce que c'est? Donc, on se pose là quelque chose qui nous implique, directement, profondément, à savoir un problème d'identité, et je ne suis pas en train de faire... en sachant ce que tout le monde sait, là encore, sauf les ministres et les politiques, sans doute, que l'identité, c'est une identité, on a toujours une identité en plure d'oignons. On a toujours des identités, ça ne veut rien dire. Là, on a une carte d'identité, mais on a des identités. On est à la fois petit, gros, chauve, médecin, avec des corps aux pieds, avec des... Enfin, bon, on a 10 000 identités, et il y a dans ces identités des identités qui sont pertinentes à un moment donné, et qui ne le sont plus à le moment d'après, et des identités... qui sont non pertinentes, qui ne veulent rien dire. Qui ne veulent rien dire, sauf à être utilisées idéologiquement. Bon, ça, la beauté du discours. Un jour, je suis rentré chez moi, il y avait tous les enfants qui étaient là, et je me suis dit, tiens, il y en a des grands et des petits. C'était ça. Bon, ça me paraissait évident, il y en a qui étaient grands et qui étaient petits. Et puis après coup, je me suis rendu compte que cette assemblée de copains de mes enfants, bon, c'est leur affaire, était extraordinairement multiraciale. Et que ça, ces différences-là, parce que identité, différence, bien sûr, ces différences-là ne voulaient rien dire. Ne me parlaient pas, ça ne voulait rien dire pour moi. Bon, je ne veux pas dire que ça n'existe pas. Je veux dire que ça ne me dit rien. Et que donc, nous avons constamment à nous reposer, non seulement la question de notre identité professionnelle, bien sûr, mais on sait bien que cette identité professionnelle, elle a des petites accroches avec des tas d'autres identités, il ne faut pas non plus rêver. Hein. On est médecin chef ou médecin tout seul, etc. C'est pas anodin. Et d'autre part, quel est le problème? Le problème, c'est quand même qu'on sache ce que veulent dire nos classifications, notre organisation psychique hein, à laquelle nous nous référons, c'est-à-dire la question, Spire a bien raison, qu'est-ce que c'est que la clinique? Qu'est-ce que c'est que notre clinique? De quelle clinique on parle hein? S'il s'agit de prendre une bande de personnes qui nous sont envoyées ou qui viennent de force, ils n'ont pas le choix, ils viennent, hein, y a pas de pénurie de clientèle. Puisqu'on parlait de la mort, les médecins, c'est comme les croque-morts, il y a une clientèle assurée. Hein. Il n'y a pas de problème là-dessus. Donc, ces gens qui viennent, hein, on peut les classer tranquillement à travers des classifications qui leur sont totalement extérieures et inconnues, ou qui nous sont totalement extérieures et inconnues. C'est comme ça que j'ai appris. Je me souviens de la réflexion d'interne qui cochait les échelles de je ne sais plus quoi, de dépression, je ne sais pas quoi. Et alors, ils passaient beaucoup de temps à cocher leurs échelles, à mettre des petites croix dans des petites cases. Et à un moment, il y en a un qui a dit « Et les malades, quand est-ce qu'on voit les malades ?» hein Je pense qu'il avait déjà tout compris de ce que c'était que la médecine. Une médecine. Alors, au fond, au travail qu'on essaie de faire et au travail technico-théorique, théorico-technique qu'on essaie de faire, il y a deux versants. Les deux versants, c'est, comment les nommer pour que ça soit un peu parlant, c'est plainte et espoir. Plainte et espoir. Eh bien, la plainte, elle est évidente. Elle est évidente. Les conditions de travail, les conditions d'exercice, la liberté de penser. La liberté de penser, qu'est-ce que c'est? C'est formidable quand même. La liberté de penser des soignants est gravement entamée. Gravement entamée parce que on nous colle, et on colle à tout le monde. Ça n'est pas une exclusivité des soignants. Mais on colle à tout le monde des codes barres, quelquefois, encore plus anonymes. C'est-à-dire toute une série de contraintes qui sont à la fois globalisantes. Nous sommes tous égaux devant la loi. Et la loi régente toute notre vie. Donc nous sommes tous égaux, c'est-à-dire que nous sommes tous anonymes. Nous sommes tous anonymes et nous sommes des points, des pions, des items. Hein. Et là-dedans, le malheureux qui se prend les pieds dans le tapis de la vie quotidienne, qui rencontre, on va le dire de manière très large et un petit peu journalistique, qui rencontre la souffrance, celle des autres et la sienne, eh bien celui-là, il est bien embêté. Qu'est-ce qu'on a vu au cours de cette journée et demie, combien nous étions tous déchirés parce qu'on n'arrive pas on n'arrive pas à s'en sortir. On est coincé là-dedans. On est malheureux là-dedans. Si vous êtes là, c'est parce qu'il y a quelque chose qui vous gêne. Autrement, il y a des choses bien plus drôles à faire. Il y a quelque chose qui est gênant, qui nous déchire, mais qui nous déchire sur un mode que, justement, comme médecin de la personne, comme médecin de la personne faisant appel, j'en dirai un mot tout à l'heure, à la philosophie et aux sciences externes à la médecine, mais ça, c'est aussi une prérogative de l'ensemble des soignants. Nous refusons, je répète, je le répéterai sans arrêt, ce monde contraignant dans lequel nous sommes enfermés, on veut nous enfermer, je ne dis pas Dupont, Durand ou tout ça, mais on veut nous enfermer, qui est un monde d'ordre et de dualité. Non, non, nous ne vivons pas dans un monde où il y a le bien et le mal, nous ne vivons pas dans un monde où il y a le, je sais pas, le yin et le yang, nous ne vivons pas dans un monde où il y a le supérieur et l'inférieur, nous ne vivons pas dans un monde où justement il y a une hiérarchisation des choses, une centralisation des choses, un accaparement, j'utilise le mot à dessein, du savoir ou de quoi que ce soit par quelques-uns, ou de l'argent si vous préférez, par quelques-uns, mais c'est un monde où nous sommes condamnés. Je dis bien condamné, vous voyez que je suis presque théologique. Nous sommes condamnés parce que la situation dans laquelle nous sommes en tant que soignants est comme ça, condamnés à répondre à une attente d'autant plus massive et d'autant plus vague que nous ne savons pas non plus très bien comment il faudrait y répondre. Donc, nous entrons enfin, à travers la médecine de la personne, dans le monde du flou. Mais le monde du flou, ça n'est pas le monde du n'importe quoi. Ça n'est pas le monde sans modèle et sans théorie, justement. Le monde du flou, c'est extrêmement important. On veut nous rabattre les oreilles du chiffrage de tout, de la quantification de tout. Hein ? On oublie, puisqu'on parlait de science, on oublie tout simplement que depuis maintenant plus de 100 ans, je suis sûr qu'il y a quelqu'un dans la salle qui dit « ça y est, il va nous ressortir Freud ». Non. Depuis plus de 100 ans, on a appris un certain nombre de choses dans le domaine de la science. On a appris qu'il y a des particules, des infraparticules, qui sont sous-jacentes au monde physique que nous connaissons, qui ont une action extrêmement puissante sur ce monde physique, dont nous ne discernons pas encore tout à fait avec précision les contours, mais qui est là, et tout le monde le sait, et que ces infraparticules ne répondent pas aux lois d'évidence de la physique traditionnelle. On le sait, c'est pas, il n'y a même pas de discussion. On nous l'apprend. Moi, je ne suis pas physicien, je vois comme les autres. On sait qu'à l'arithmétique dans laquelle nous vivons, on peut aussi aborder les choses par le biais, je donne juste ça comme un exemple, par le biais de la géométrie dont on a parlé 100 fois, un tel au centre et pas au centre et sur le côté et au milieu. Mais vous vous rendez compte que ça, c'est une géométrie de cours préparatoire. Hein, c'est une géométrie de cours préparatoire. Depuis, on a appris aussi qu'il y avait, par exemple, une théorie des ensembles flous, et que cela répond à un certain nombre de lois extrêmement précises. Et pourquoi on ne s'en sert pas? Pourquoi on ne se sert que des statistiques au détriment de cette idée d'ensemble flou? Parce que, à travers cette idée, je le donne comme un exemple, là, je n'ai pas le temps de développer, vous voyez, le temps passe comme ça, mais
à travers ces idées strictement scientifiques qui ne sont plus discutées par personne, sauf par des idéologues et par un certain nombre de soignants. Alors là, il y a quand même quelque chose, un problème qui se pose. Bien sûr que dans la situation angoissante de fond et la situation angoissante de fait, savoir les difficultés que les uns et les autres rencontrent dans leur exercice quotidien, il y a un besoin de réassurance dans un ordre aussi simple que possible. Nous sommes les trublions qui venons dire cet ordre aussi simple que possible, c'est peut-être rassurant, mais c'est régressif. Et cet ordre aussi simple que possible, non seulement il est régressif, mais il est, et allons-y quand même, il est pathogène dans un certain nombre de situations. Donc, il nous faut faire, et là on tombe sur ce problème de formation, il nous faut faire cet effort anormal, de penser un peu autrement qu'on a appris au cours préparatoire, qu'on a appris à l'école, qu'on nous rebat les oreilles, que l'ordre du monde, c'est n'importe quoi, c'est la loi de la concurrence généralisée. Quelle concurrence il peut y avoir entre un soignant et un soigné? Chacun essaie de tirer au mieux les avantages de la situation et essayer d'en limiter les intérêts. Mais où est la concurrence? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? On n'est pas là du tout. Dans un système de concurrence, on est là dans un système de groupe, d'ensemble, j'y reviens. Hier, on a dit très bien qu'il y avait quelque chose qui avait changé considérablement. C'est qu'on se posait la question désormais, non plus de cette relation à deux, mais d'une relation à deux plus ce qu'on veut. De ce monde à, je disais, quatre dimensions au moins. Donc du groupe. Et là encore, on a des constats que j'oserais dire scientifiques et qui font appel aux sciences sociales, comme aux mathématiques d'ailleurs. C'est intéressant, et qui sont des constats que pendant des années, on a voulu, un, séparer la relation individuelle des problèmes, alors pour ce qui nous concerne, des problèmes dits de santé publique et d'organisation. Et donc, chacun a vécu son petit bonhomme de chemin, et on tombe devant des incohérences majeures. Évidemment, tout ce qu'on dit de la légalisation de gestes simples, des lignes de des trucs de bonne conduite, des impératifs, de la bientraitance, de la maltraitance, qui sont tout le temps des choses qui deviennent réglementaires, donc culpabilisantes, parce que nous ne pouvons pas, dans notre métier quotidien, rester dans des clous, quels qu'ils soient. Nous avons besoin de clous pour traverser les événements mais nous avons aussi besoin de marcher de temps en temps à gauche et à droite des clous. L'autoroute, c'est très bien, mais les petits chemins, à condition qu'on garde les bornes de l'autoroute, c'est peut-être beaucoup plus agréable et en fait beaucoup plus productif. Et on y avance peut-être beaucoup plus loin à travers ces petits chemins. Et on prend moins de risques aussi. Donc, il y a là quelque chose qui est repenser l'ensemble du système. L'ensemble du système avec, justement, en recherchant non pas les différences. Une des grandes souffrances de la médecine, et donc des patients, et donc des aidants naturels, c'est quoi? Le malheur de la médecine actuelle, c'est le saucissonnage. Qu'est-ce que ça veut dire que, ah bon, ça, ça concerne votre jambe gauche, donc c'est pas mon boulot, je passe, moi je suis un spécialiste de la jambe gauche, si vous avez mal à la main droite, c'est le service en face. Qu'est-ce que ça veut dire que si vous avez un taux de Schmilblick à tel endroit, vous passez au troisième étage, si vous... On rêve. Qu'est-ce que ça veut dire que cette malheureuse spécialité de cardiologie, où les types disent, alors qu'ils sont à peine nommés à l'internat, moi je ferai de la rythmologie. Où est passé le soldat Ryan, hein, de quoi on parle? De quoi on parle? De petites machines qui font plic-plic-plic-plic, hein, de la promotion de ces petites machines, ou de ce qui fait souffrir quelqu'un et des moyens que nous pouvons utiliser qui ne sont pas que des moyens techniques, heureusement. Parce que s'il y avait que des moyens techniques, ce serait la catastrophe. Excusez-moi, mais ce serait la catastrophe. Qui ne sont pas que des moyens techniques, mais qui sont un ensemble de moyens qui vont directement essayer d'aider et de participer à l'autodéfense du malade à ce moment-là ou de la personne porteuse d'une maladie à un moment donné, dans des conditions données. Donc on est obligé de repenser toute une série de choses. Et là, j'insiste, nous ne pouvons pas, à partir de là, ne pas réfléchir à la manière dont il faut fonctionner. On a dit réseau, on a dit équipe, on a dit collectif, on a dit intervention du malade et tout ça. Je vous propose juste un double modèle très simple, mais dont on ne se sert malheureusement pas beaucoup, je crois que vous avez raison, mais qui est extrêmement productif, en tout cas dans mon expérience, qui donne des choses assez étonnantes. Le premier modèle, c'est celui de l'ensemble flou. Dans l'ensemble flou, il n'y a pas de centre. Hein? C'est une amibe qui bouge dans le temps. Avec des pseudopodes, avec des trucs qui poussent, des trucs qui se régressent, la masse reste à peu près constante. Mais il y a des trucs en plus, des trucs en moins, des trucs qui changent. Le changement, on disait hier. Hein. Bon, des trucs qui changent. Donc il n'y a plus de centre. Il y a des éléments qui nagent dans cette espèce de soupe primitive. Bon. Qu'est-ce qu'ils font, ces éléments? C'est le modèle qu'emploient des gens comme Bion pour le fonctionnement de la pensée. Hein. Il y a des éléments comme ça qui ne sont pas perceptibles, qui n'ont pas de sens, qui sont comme ça des sensations ou des émotions brutes. Ces éléments se baladent dans la soupe primitive. Et puis, à l'occasion de collisions, de rencontres, de hasards ou de nécessités, comme vous voulez, ces éléments se prennent en masse de... 3. À ce moment-là, ils deviennent des masses. Ils deviennent des masses et ils deviennent significatifs de quelque chose. Ils se prennent en masse et donc ils prennent sens aussi. Ils prennent sens et à ce moment-là, il faut changer notre fusil d'épaule. Il y a donc une transition de phase, comme disait le physicien. Il faut changer notre fusil d'épaule et c'est pas facile quand on a mis un fusil sur une épaule de se dire ah ben non hop, on change. Non, on a pris des habitudes aussi, des mauvaises habitudes mais des habitudes. On a des positions qui sont peut-être pas idéales mais en tout cas qui sont pour nous les positions antalgiques. Quoi. Donc il faut changer notre fusil d'épaule à partir du moment où il y a un certain degré d'amalgame et à partir de là on pense. Pour l'histoire de la pensée. Pensée, où on pense cellules ou amas de cellules, où on pense petits groupes. Et on en est aujourd'hui à se dire que tout ce qui a été écrit, comme ce passage de la médecine individualisée à la santé publique, loupe une marche systématiquement, à savoir l'intermédiaire nécessaire qui est le groupe, le petit groupe, le groupe à taille humaine, le groupe restreint, la famille. C'est une étape nécessaire. Pourquoi c'est une étape nécessaire? Parce que c'est un groupe à taille humaine accessible aux perceptions d'un individu. Une foule, non. une loi, non. Ce qui concerne la mondialisation, la globalisation, voire une nation entière, non. Ce qui concerne une langue et une seule langue, non. Ce qui concerne le petit groupe devient un intermédiaire nécessaire et nous oblige aussi à penser un mot qu'on n'emploie plus, qu'on n'emploie pas ou qu'on devrait repenser aussi, encore un mot-clé, que la maladie, l'histoire de la maladie, l'histoire du portage d'une maladie et du portage en commun d'une maladie, c'est un cheminement. Hein, revoilà le petit chemin. C'est un cheminement, ça n'est pas un moment. Ça n'est pas, il y a, dans le cours de ce cheminement, des moments exquis, ceux où on se pose et on s'assoit, ceux où on boit un coup et ça va bien. Mais il y a des moments particuliers, c'est un cheminement. Et ce cheminement, il n'est pas rythmé par les horloges ou des délais ou le rendement qu'on nous impose. Il est marqué par ces bornes constantes que sont ces moments exquis. Et ces moments exquis, ils n'ont rien à voir avec les horloges, ils ont à voir avec l'évolution personnelle du soignant, du soigné, de leurs entourages. Qu'est-ce que ça... Hein, comment ?
À propos d'horloge.
Ben oui, à propos d'horloge, je suis désolé. Mais bon... Donc on est dans, à propos d'horloge, donc je vais finir très vite. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous avons sans arrêt parlé d'équipes de machins comme ça et d'équipes et de machins comme ça centrées. Centrées, ça veut dire figées et ça veut dire hiérarchisées. Il y a un modèle micro-sociologique, hein, qui est celui du groupe dit à tâche. Pas à tâche sur le veston ou sur la cravate, à tâche. Ce groupe à tâche, qu'est-ce que c'est ? C'est le rassemblement d'un certain nombre d'individus, de personnes, chargées d'un objectif commun. Pour nous, l'amélioration de l'état d'un des membres du groupe. Le membre du groupe, dont il a son rôle, sa fonction dans le groupe. L'animateur du groupe a son rôle, sa fonction dans le groupe. C'est un problème de faire le guignol et de passer les micros. C'est une fonction comme une autre. Chacun a sa tâche. Rien n'est entamé de l'identité des uns et des autres. Il n'y a pas de concurrence entre les autres, il y a une répartition des tâches. Dans les tâches d'une équipe, d'un réseau comme ça, il y a deux types de tâches. Il y a ce qu'on appelle des tâches indifférenciées. Faire le ménage ou passer le micro, il y a besoin d'aucun diplôme, d'aucune formation, on se démerde. Et on le fait, et chacun peut le faire. Moi, je me souviens qu'un jour, comme ça, je passais avec mon patron de l'époque dans un service. Il passe le doigt sur un truc de mur, il y avait plein de poussière. Il regarde, il dit, ah, c'est sale, là, c'est sale. Et à ce moment-là, les malheureux infirmiers commencent à pâlir, à rougir, et le patron se tourne vers moi et dit, mais... Ça n'est pas à eux de faire ça. Monsieur Kipman, vous voulez prendre un balai ? Hein ? Et nous voilà partis, le patron et moi, dans les couloirs, en train de balayer. Tout le monde s'en va en pleurant, en criant. Bon. Mais effectivement, il avait raison. Il avait raison. Il y a des tâches qui sont indifférenciées. Où on accepte de les faire, et puis voilà. Où on se dit, moi, je reste sur mon précaré, et à ce moment-là, on sort du groupe. C'est intéressant par rapport à ce que quelqu'un disait tout à l'heure, je ne sais plus où, qui, à savoir, mais on intervient provisoirement dans un groupe normalement constitué, quel qu'il soit, chacun ayant son rôle ou sa tâche, peut-être de concurrent, peut-être dans d'autres types de groupes, mais celui qui s'en va est immédiatement remplacé par un autre qui a la même fonction, hein, et on oublie aussi de parler de notre fonction. Hein ? Comme on oublie en médecine de parler de cette médecine fonctionnelle. Qu'est-ce qui dysfonctionne ? C'est pas qu'est-ce qui est pathologique. pathologique, c'est une convention qu'on se donne entre nous pour estimer que l'homosexualité, c'est pathologique, ou que les oublis des personnes âgées, c'est pathologique. C'est une convention sociale. Demain, ce sera peut-être plus pathologique. Hein, pour certains, ça n'allait pas. Donc, il y a là quelque chose de conventionnel, et peut-être qu'il faut aussi repenser les conventions qui nous lient, ces conventions de vie en commun. Et là, effectivement, nous avons besoin, pour des groupes à tâches, mais besoin d'être plusieurs, et d'être plusieurs avec plusieurs tâches, que ce soit le regard extérieur dont on parlait hier, que ce soit l'apport des philosophes, dont on ne dira jamais assez combien ils nous aident, non pas à faire, mais ils nous aident à penser. Le problème aussi, c'est que nous ne sommes pas que des machines. Il faut qu'on pense à ce qu'on fait pour pouvoir le faire, etc. On est dans un cercle vicieux. Donc, je passe très vite sur tout ce que j'aurais encore à vous dire. Pour passer au dernier chapitre, et ça je vais essayer d'être très vite, c'est la lourdeur des tâches qui nous attendent. La lourdeur des tâches qui nous attendent, elles sont simples. Il a été dit, redit, et en tout cas, si ça ne se fait pas comme ça, ça se fera sans moi, il n'est pas question de nous contenter d'un rôle de publication, de congrès, de quoi que ce soit. Nous travaillons au ras des marguerites, nous travaillons les pieds dans la clinique quotidienne, et c'est de là que ça part. Moi, je ne sais pas penser autrement, je ne peux pas penser autrement. Donc, à partir de l'expérience, et de l'expérience de tout le monde, bien sûr. Donc, pour ça, il faut que l'observatoire accepte, je dis l'observatoire, personne morale, accepte de s'inscrire dans un certain nombre de choses. Un certain nombre de choses, c'est quoi ? C'est bien entendu tout ce que Juan Mezech a dit, de la coopération, de la collaboration avec d'autres groupes, d'autres personnes. Plus on est de fous, plus on rit, bien sûr. Mais il ne faut pas que ce soit formel. Donc, on a pensé que parmi les tâches de l'observatoire, puisque un observatoire s'est fait pour observer et pour dire ce qu'il a observé, il fallait qu'on ait un certain nombre d'ateliers, d'ouvroirs, peu importe le nom qu'on leur donne, qui auront comme charge de produire quelque chose, de pas simplement se réunir pour se gratter le nombril, essayer de produire quelque chose. Parmi les ateliers jusqu'à présent retenus, il y a un atelier autour des personnes âgées et de la fin de vie, je le dis comme ça, très, très, très vaguement. Un atelier autour, c'est-à-dire la préfiguration de ce qui s'est fait hier après-midi, hein, c'est-à-dire c'est ça les axes retenus pour le moment, il y en a 10 000 autres, enfin, c'est ça les axes. Un atelier autour de la formation, à condition qu'elle ne recherche pas uniquement des trucs de formation, mais qu'elle repose, comme on se la pose en médecine de la personne, la question des invariants de la formation, et que cette formation, elle commence à l'école maternelle, comme sensibilisation à la santé, à la maladie, comme ça. Elle continue... au niveau de l'information générale, de la communication, comme on dit maintenant, etc., qu'elle se continue aussi par la sensibilisation, qu'elle se continue enfin par la véritable formation professionnelle, l'aide aux aidants, etc. C'est-à-dire que ce qui est important, me semble-t-il, dans un groupe comme ça, c'est pas de dire, voilà, moi j'ai un truc, je vais faire de, je sais pas quoi, de la formation par l'équitation. Mais de se dire, quels sont les invariants concernant cette médecine de la personne, quels sont les invariants qu'on retrouve à tous les étages, à tous les niveaux de l'histoire et à tous les niveaux des techniques de formation. Et on voit là combien la technique ne peut pas exister sans réflexion préalable. Troisième groupe de travail. Les personnes âgées et les fins de vie, on avait imaginé la gestion des fins de vie dans les établissements. Vous voyez tout de suite.
Deuxième, donc, la formation. Troisième, aidez-moi là, je voyais. Hein, l'annonce. Alors, l'annonce, c'est intéressant. C'est intéressant parce que j'ai eu l'impression, hier soir, je suis sorti en me disant, ce congrès a été pollué par l'annonce. Hein, a été pollué. On n'a parlé que de ça, dans tous les groupes. l'annonce. Et donc, hier soir, j'étais très, très malheureux. Je me suis dit, merde, mais qu'est-ce qui s'est passé, là? Il y a eu une... Bon, en tout cas, c'est devenu une espèce de must qui tourne comme ça. Et je me suis rendu compte, après coup, en y réfléchissant, que justement, ce que nous avions illustré de manière formidable à travers tout le questionnement autour de l'annonce, c'est combien l'annonce n'existe pas ou que c'est un système de petites annonces. Pas d'annonciation, mais de petites annonces. C'est-à-dire que l'annonce est un moment, dans un continuum. Hein. L'annonce, c'est la coagulation d'un certain nombre d'éléments exprimables par l'annonceur, représentables par l'annoncé. Mais ça ne s'arrête pas là. Il va coaguler d'autres choses autour de ça. Et l'annonce, l'information va se préciser, va se nuancer, va se modifier. Donc ça n'est jamais, et ça c'est aussi important, dans l'image qu'on se fait des soignants, les soignants ne sont pas porteurs de vérité, ils ne sont pas porteurs de pouvoir, ils sont porteurs d'hypothèses argumentées. Un point, c'est tout. Et on voit là la proximité avec une démarche justement scientifique. Qu'est-ce que sentent les soignants ? Ce sont des applicateurs. Ce sont des applicateurs de science, mais alors que dans leur pratique quotidienne, ils appliquent cette démarche scientifique et scientifiquement argumentée, à savoir que on a une idée, on a une intuition, comme on le disait il y a quelque temps, une idée, une intuition. Cette intuition... On y croit suffisamment pour s'appuyer le travail d'en faire une hypothèse et que cette hypothèse, il faut ensuite se donner les moyens, le courage et le souci de la valider, l'exprimer et de la transmettre. Énorme. L'intuition, ça dure 30 secondes. La conviction, ça va très vite. Le troisième temps, c'est un sacré boulot. Et cette élaboration-là, c'est exactement ce qui se passe entre un malade à qui on annonce une maladie et un soignant qui est chargé de l'annoncer. Comment se passe, je l'ai dit dans des ateliers, mais comment se passe le fait qu'un enfant apprenne ce que c'est que comment on fait les bébés? Eh bien, il reçoit une information, ses copains, ses trucs, il voit un truc à travers la serrure, peu importe. Et ensuite, il passe des semaines à vérifier l'image qui s'en est faite, à demander à gauche, à droite, à essayer de trouver des trucs, à vérifier. Eh bien, le malade, il fait pareil. C'est pas qu'il retombe en enfance, c'est qu'il fait comme tout le monde. Hein, on lit dans le journal la découverte du siècle. Alors, on lit autre chose pour voir si c'est vraiment la découverte du siècle, si ça correspond à l'idée qu'on... On a besoin de vérification. Hein, et, excusez-moi d'employer ce mot qui, autrefois, ça voulait dire autopsie. Mais on a besoin de vérifier... Une fois... je garde l'analogie. Tant pis. L'information qu'on donne, du moment qu'on la donne, elle est réifiée, donc elle est morte. À partir de là, il faut aller voir ce qu'il y a dedans. Hein, on peut le dire exactement comme ça, ça n'est pas un problème. Donc il y a un vrai problème d'annonce, mais de nous, l'importance de que nous accordons à ce que nous disons. Là, il y a vraiment une interrogation sur nos pratiques qui se remet en place. Si nous pensons que c'est la vérité et qu'il n'y en a pas d'autre, malheureux patient. Vous voyez comment la médecine de la personne, à travers ses ateliers, à travers ses trucs...
deuxième niveau de ce que doit faire un observatoire, c'est bon, apprendre, savoir, regarder, mais c'est aussi faire savoir. Bon. Donc là, il y a une... Non, mais c'est, ça a l'air de rien, hein, mais c'est... Il y a une newsletter qui est en... Enfin, une newsletter, une lettre, hein, une publication qui est en train de se mettre en place, qui sera d'abord sur le site dont vous avez la référence et qui, progressivement, va s'étoffer, s'argumenter, mais c'est parti, c'est sur des rails. Toutes les bonnes volontés sont sollicitées, toutes les idées sont sollicitées, toutes les publications sont sollicitées. Bien entendu, la voix de l'observatoire est pour le moment une petite voix grêle, hein, mais si elle se tait, on arrête tout. Si on essaie de pousser dans cette direction, deuxième niveau de faire savoir, alors là, c'est tout neuf, et je suis très content de vous l'annoncer, il va y avoir chez John Lee Bay une série de livres qui se dessine autour de la médecine de la personne. Donc il y aura aussi la possibilité de publier des choses un peu consistantes et donc de faire savoir le travail qu'on fait. Hein, c'est, bon, et justement d'amorcer d'autres échanges. Troisième, donc il y a les ateliers et bien entendu dans le faire savoir, il y a la question maintenant que nous pouvons nous congratuler et nous congratuler de ce congrès, se dire ah là c'est formidable, magnifique, on a le congrès. Et bien maintenant il y a la question du congrès suivant. Quand, comment, où et quel thème? Et là, un congrès se préparant sur au moins un an, hein, il ne faut pas rêver. Donc il y avait plusieurs lieux envisageables. Mais hier, plusieurs personnes ont souhaité qu'on se pose la question de le refaire ici à Poitiers. Il semble que le maire adjoint qui était là, ça lui plaît. Donc c'est une hypothèse pour le moment.
On verra demain.
Oui, on verra demain. Non, mais on verra demain. Non, mais enfin bon, je ne sais pas où aura lieu ce prochain congrès, mais parmi les hypothèses que nous n'avions pas envisagé avant, d'ailleurs, en disant il faut que ça voyage, eh ben, il y a peut-être de nouveau Poitiers, mais il y a aussi Nice, il y a aussi Nancy, enfin, il y a des pistes, hein, il y a des pistes un peu à gauche, à droite. Troisième pression et demande qui est soumise à l'Observatoire, alors ça, c'est Juan qui vient de vous en parler, c'est que nous sommes sommés de participer à ces activités internationales, j'ai envie de dire plus vite que prévu. Mais très bien, tant mieux, hein, on ne va pas se plaindre de ce que le carrosse avance vite. Mais effectivement, je l'ai dit hier, nous avons tenu à ce que ce soit francophone pour des raisons extrêmement précises et délibérées, mais nous ne tenons absolument pas à nous couper de ce mouvement mondial qui se fait. Donc, bien entendu, ça veut dire que là, appel au peuple et appel à toutes les idées. Non, mais vraiment, je le dis de manière très, très simple, hein, exprès. Toutes les idées, aussi farfelues soient-elles, soyez gentils, osez les donner. Et ça peut faire la petite graine qui va faire germer une... quelque chose de plus organisé. Donc allons-y. Alors, maintenant, j'ai dépassé l'heure.
Complètement.
Enfin, bon, c'est comme ça. Hein, c'est un risque. J'ai dépassé l'heure, mais je crois qu'il fallait que je dise ce que je viens de vous dire et que je précise un certain nombre de choses. Excusez-moi d'avoir dépassé l'heure. Et avant de nous quitter, je vous propose, non pas... d'applaudir les intervenants et tout ça, mais de vous applaudir, parce que sans vous, rien n'aurait été fait. Et quand même, petite concession au culte de la personnalité, d'applaudir Brigitte, sans laquelle rien ne se serait fait.
Merci.
Merci à tous, mais c'est surtout à vous pour être venus ici, aux intervenants qui aussi ont été formidables, sont tous venus. Et merci à Simon Daniel qui a été, je l'appelle le fauteur de cette affaire. Voilà. Maintenant, on vous propose une petite collation avec le... qui est servi aussi à la cafétéria, comme hier. Et puis ensuite, vous avez une petite séance de planétarium pour vous détendre avec les étoiles et pour voir tout ce qui est invisible. Voilà. Merci à vous et bon week-end. Merci.